Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, soyez les bienvenus dans Apolline Matin, il est 6h58, nous sommes le mercredi 12 novembre. Un nouveau refus d'obtempérer qui tourne au drame. Un jeune homme de 16 ans est décédé hier soir à Tourcoing dans le Nord. Il circulait avec un passager sur un scooter quand un équipage de la police municipale leur a demandé de s'arrêter. Au contraire, il a pris la fuite, il a accéléré, s'est encastré dans un poteau. Dans 10 minutes, nous serons avec un des policiers du Nord pour les toutes dernières informations sur RMC. Et puis c'est aujourd'hui que les députés vont voter pour la première fois sur la réforme des retraites. La suspension devrait passer. Hérésie pour le MEDEF. Qu'en pense la CGT? Sophie Binet, qui dirige le syndicat, est l'invitée du face-à-face à 8h30 et sur RMC et BFM TV. Tout ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas. La réforme des retraites suspendue, j'attends vos témoignages au 3216 et puis le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Et puis c'est l'événement sur RMC. On vous offre 120 000 euros, c'est du jamais vu, c'est la plus grosse somme d'argent jamais offerte sur RMC. 100 000 euros pour vous et 20 000 euros pour la personne de votre choix. Alors restez bien à l'écoute d'RMC, dès que vous entendrez l'alerte, vous jouerez. On vous donnera toutes les instructions, il y aura une alerte de toute façon d'ici 9h. Apolline Matin, c'est parti. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo. Géraldine de Mory, c'est la douceur qui s'installe.
Une douceur complètement exceptionnelle. On risque de battre des records même de douceur entre aujourd'hui et vendredi matin. Déjà pour ce matin, on a des températures qui sont exceptionnellement douces, sauf vraiment tout à l'est avec seulement 1 degré à Strasbourg et Grenoble, mais déjà 19 degrés à Biarritz. Cet après-midi, on devrait atteindre 26 degrés à Biarritz, ça veut dire qu'on serait 11 degrés au-dessus des normales. 22 pour Bordeaux, 21 à Marseille, 19 à Lyon, 17 à Brest, 16 à Paris ou à Lille, avec beaucoup de soleil sur pratiquement tout le pays, petite exception pour la pointe bretonne qui sera sous la pluie, et on aura aussi quelques averses entre le golfe du Lion et le sud du Massif central, donc ailleurs du soleil avec un fort vent de sud. Et le pic de douceur, ce sera même pour demain avec une vingtaine de degrés de moyenne sur le pays.
C'était la météo sur RMC. Bon réveil avec Apolline Matin.
Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une enquête pour homicide involontaire ouverte à Tourcoing, là où un jeune adolescent de 16 ans est mort hier soir. Il a percuté un poteau après un refus d'obtempérer. C'est le jour J à l'Assemblée nationale. Les députés sont de retour dans l'hémicycle. Ils doivent se prononcer sur la suspension de la réforme des retraites. Et Emmanuel Macron, lui, est à Toulouse, attendu de pied ferme par des agriculteurs en colère, mobilisés ce matin contre un possible accord avec les pays du Mercosur.
La mort d'un jeune mineur, 16 ans, à Tourcoing hier soir après un refus d'obtempérer.
Tué au guidon de son scooter en voulant échapper aux policiers municipaux. On retrouve Caroline Renaud ce matin en direct de Tourcoing dans le Nord. À l'origine de ce drame, Caroline, plusieurs délits routiers.
Oui, des infractions routières qui ont conduit cet équipage de la police municipale de Tourcoing vers 19h à vouloir contrôler ce scooter sur lequel circulent deux adolescents. Les deux jeunes âgés de 14 et 16 ans prennent la fuite, empruntent une rue à sens interdit, ils roulent sur le trottoir et percutent un poteau en voulant éviter une voiture qui arrivait en face. Les deux adolescents circulaient sans casque, le conducteur de 16 ans décède malgré l'intervention des secours, le passager de 14 ans qui serait son cousin est toujours hospitalisé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Selon le parquet de Lille, il semblerait qu'aucun tiers ne soit directement impliqué dans cet accident. Les policiers municipaux, eux, indiquent qu'ils se trouvaient à 150 mètres du scooter au moment de la chute. Ce matin, le centre-ville de Tourcoing est calme. Les forces de l'ordre déployées hier soir pour éviter tout débordement ont quitté les lieux.
Caroline Renaud, envoyée spéciale à Tourcoing en direct ce matin pour RMC. Les débats vont reprendre à l'Assemblée nationale 15h cet après-midi. Après deux jours de pause, les députés doivent finaliser l'examen du budget de la Sécurité sociale avant minuit. Plus de 350 amendements doivent encore être passés en revue sans vote. C'est la version amendée du texte qui partira au Sénat. Un texte qui devrait, sauf surprise, contenir la suspension de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028. Examiné en premier lieu aujourd'hui, concession du gouvernement aux socialistes qui pourrait permettre à ces retraités bordelais rencontrés par Pierre Borgès de partir un peu plus tôt que prévu.
Avec cette suspension, Franck, né en 1965, pourra partir à la retraite 3 mois plus tôt que prévu.
Ben, je prends et je suis content. C'est déjà ça de gagner. C'est 3 mois qu'on pourra profiter pour faire ce qu'on peut pas faire quand on travaille, quoi.
Pour lui, qui travaille dans la sécurité, c'est un juste retour des choses après plusieurs années de contestation.
On a manifesté parce qu'on n'était pas d'accord de la réforme des retraites. J'ai tout donné pour le travail. On arrive au bout, on est fatigué, quoi. Aux prochaines élections, il faudra faire montrer qu'on n'était pas d'accord. Il faut que ça reste comme ça, quoi.
Mais partir à 63 ans et 3 mois au lieu de 63 ans et 6 mois, ça ne fait pas non plus sauter de joie Philippe, chauffeur routier de 59 ans.
Ces 3 mois, bah, c'est rien du tout. J'aurais préféré qu'à suspendre, et ben, on revienne comme c'était avant la réforme.
Cette suspension va profiter à plus de 3,5 millions de personnes, dont Sylvie Aiguel, née en 67 et 68. Mais ils s'inquiètent pour le budget de l'État, alors ils continueront à travailler au-delà de l'âge légal.
Si ça doit aider pour nos enfants, il faut continuer à travailler un petit peu plus.
Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage? Je suis inquiet pour eux. On ne peut pas se permettre de vivre dans un monde d'égoïste. Et moi, je préfère travailler un peu plus. Si ça doit bénéficier à d'autres, ben oui, je vais le faire.
Gaël dit être prêt à travailler un an à un an et demi de plus que l'âge légal s'il le faut.
Sa réforme totem. Emmanuel Macron veut reprendre la main.
Il est à Toulouse ce matin pour un débat avec les Français. 250 lecteurs de la Dépêche du Midi vont rencontrer le président sur le thème de la démocratie à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. S'en suivra une rencontre avec les agriculteurs mobilisés dès ce matin autour de Toulouse, très remontée contre le chef de l'État qui a ouvert la voie la semaine dernière à un accord avec les pays du Mercosur. Inès Zegloul.
Un tête-à-tête aux allures de règlement de compte.
Il nous explique, parce que comme ça, ça permettra de remettre l'église au milieu du village du Mercosur.
Mathieu Maronès, des jeunes agriculteurs de Haute-Garonne, fulmine. Emmanuel Macron tiendra-t-il le même discours dans la région agricole la plus pauvre de France que celui qu'il avait au Brésil, où il s'était dit plutôt positif sur la possibilité de signer cet accord.
Qu'ils prennent des engagements, n'importons pas ce que nous ne produisons pas et ce que nous ne voulons pas produire en Europe. Si c'est pour avoir 4 bouts de paille, 4 bouts de miettes, pour calmer la colère agricole, ça servira à rien. Donc on est quand même obligé de lui mettre un ultimatum pour qu'il puisse répondre à nos attentes.
L'ultimatum est simple, disent les agriculteurs. Soit il repart de ce rendez-vous avec des garanties, soit...
On réservera d'autres surprises.
En clair, les syndicats pourraient, à l'issue de cet entretien, appeler à se mobiliser encore et encore. Jérôme Bail, des ultras de la 64, ne s'en cache pas. Tout est entre ses mains, les mains d'Emmanuel Macron.
J'espère qu'il va comprendre qu'on est mobilisé, parce que ça suffit. On peut pas crever comme ça.
J'espère qu'aujourd'hui, enfin, il entendra notre détresse, conclut-il.
Emmanuel Macron, qui sera de retour à Paris ce soir à la veille d'une journée de commémoration pour les attentats du 13 novembre 2015. Tout avait débuté au Stade de France ce soir-là avec les premières détonations en marche d'un match de l'équipe de France 10 ans plus tard. Jour pour jour, les Bleus joueront leur 5e match de qualification pour la Coupe du Monde face à l'Ukraine demain soir au Parc des Princes. Une date qui pose question et divise les supporters présents au Stade de France en novembre 2015. Clément Brossard les a rencontrés pour RMC.
Voir l'équipe de France rejouer ce 13 novembre, difficile à avaler pour Atsa, handicapé depuis 10 ans car touché par la première explosion au stade.
Pour moi, c'est bizarre. C'est pas un jour de fête, le 13 novembre. C'est un jour de commémoration. Je sais pas comment ils ont osé faire ça, déjà.
Mais pour une raison d'équité, toutes les équipes doivent jouer le même jour, explique l'UFA. Attaché de presse des Bleus en 2015, Philippe Tournon le comprend.
Si on sacralise toutes les dates, on a vécu des drames, les calendriers vont être difficiles à respecter. Il faut pas oublier. Il faut se souvenir. Mais il faut pas sacraliser des dates et revenir sur des événements.
Un argument inconcevable pour Camille. Pourtant fidèle supportrice, elle ne se rendra pas au stade demain, aussi gênée par l'affiche du match.
C'est un peu étrange qu'on se commémore le 13 novembre contre un pays qui est en guerre et qui souffre énormément en ce moment. Puis bah moi personnellement, j'ai un peu ce blocage autour du 13 novembre. Je me dis c'est une date tellement symbolique que c'est la date où il pourrait se repasser quelque chose. Peut-être que c'est la parano, mais je préfère rester chez moi.
Autre fan, Sébastien, à l'inverse, a son billet pour le match.
La commémoration, c'est hyper important, mais ce qui est aussi important, c'est de continuer à faire la fête malgré tout, pour donner tort à ceux qui ont fait ça.
Y aller aussi pour rendre hommage aux victimes, notamment lors de la minute de silence prévue en avant-match.
À ce propos, et c'est une information RMC, le parquet national antiterroriste envisage l'extension du dispositif de justice restaurative qui permettrait aux victimes qui le souhaitent de rencontrer les auteurs d'attentats terroristes. La démarche a d'ailleurs été formulée par Salah Abdeslam, selon l'avocate du seul membre encore en vie des attentats de Paris condamné à la perpétuité incompressible. Fini les heures d'attente sur le quai du métro pour un bagage oublié. La RATP change de procédure. procédure. C'est une information que vous révèle RMC ce matin dès le 1er janvier. Une rame de métro ou de RER pourra être déplacée jusqu'à une voie de garage avant l'intervention des démineurs, laissant place au train suivant. C'est une aberration sécuritaire, dit Force Ouvrière. Sur les rails, toujours, version grande ligne. L'ouverture à la vente ce matin de la billetterie de la SNCF pour les vacances d'hiver avec une offre renforcée vers la montagne. Il y a un petit changement, Grégoire Morelli, pour ceux qui aiment s'y prendre très en avance pour leurs vacances.
La nouveauté cette année, ce sont ces destinations dont les réservations sont ouvertes jusqu'au 3 juillet 2026. Marseille, Nice, Toulon, Perpignan, Lyon ou encore Montpellier. Des trajets où la concurrence se fait plus rude, comme le rappelle Arnaud Aimé, spécialiste des transports.
On peut imaginer que c'est pour faire face à la concurrence qui s'est installée sur ces lignes, avec notamment aujourd'hui la présence des transporteurs italiens et espagnols, Trenitalia et Renfe, sur une partie des trajets.
Selon une étude de 2024 du comparateur de prix Trainline, en réservant 11 semaines à l'avance, on peut réaliser une économie de 25% sur un Paris-Bordeaux, voire de 37% sur un Paris-Lyon.
Et les billets sont désormais ouverts.
C'était le journal de Thibaut Texer. On part tout de suite au 32-16. Daniel, qui nous appelle de Libourne, en Gironde. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Pauline, c'est ça?
Mais oui, c'est ça, je suis là Daniel.
Et ce matin, on a récupéré aussi Pascal. Donc,
exactement, elle est revenue alors, plus en forme que jamais. Daniel, vous vouliez...
Avec son rire très caractéristique.
Ça fait du bien, alors, on est d'accord, ça fait du bien le matin.
Ah, j'adore.
Daniel, alors, justement, vous faites partie de ceux qui êtes clairement du côté de la vie dans cette semaine de commémoration des drames absolus, des attentats terroristes il y a 10 ans. Vous vouliez réagir à cette question, faut-il faire rejouer l'équipe de France le même jour? Ce sera pas précisément au Stade de France, puisque cette fois-ci ce sera au Parc des Princes, mais un match France-Ukraine le 13 novembre au soir. Daniel, ça en choque certains, mais pas vous.
Non, parce que moi ce que je pense, c'est que on peut pas à chaque fois, si je puis dire, parce que il y a eu malheureusement d'autres drames, on peut pas à chaque fois arrêter une compétition ou un plaisir qu'on apporte aux supporters de football, par exemple, parce que sinon on va pas arrêter. Et quelqu'un l'a dit, il y a le 11 septembre, il y a déjà Furiani, on va pas arrêter. Donc moi je comprends pas Didier Deschamps. Et je pense que ça va apporter quand même de la joie à ceux qui aiment le football. Et
Didier Deschamps qui avait indiqué qu'il aurait préféré ne pas jouer de match à cette date-là. Pour vous, Daniel, c'est presque l'inverse. C'est montrer qu'on continue.
Monsieur Deschamps, il fallait intervenir auprès de l'UEFA avant.
Oui, parce que tout le monde doit jouer, hein, on le précise, à la même date, ce jour-là. Après, donc, je suis assez d'accord avec vous, Daniel.
Il le savait, c'est un peu hypocrite, quoi.
Tenter d'avoir justement une forme de vie qui continue précisément ce jour-là.
Vous avez cité Furiani, Daniel, on ne joue plus de foot français, hein, pas à l'international, mais on ne joue plus de foot français le 5 mai.
Je sais.
On a choisi cette date-là, là, le 13 novembre.
Je suis allé à Furiani, je connais.
C'est quand même franchement symbolique. Et je rajoute sur Didier Deschamps, quand même, à sa décharge, que c'était lui, déjà, le coach à l'époque. Ces gens-là sont peut-être traumatisés aussi.
Enfin, moi, je compatis à la douleur des gens. Je suis parisien d'origine. Je compatis. J'avais des amis qui regardaient un match, d'ailleurs. Enfin, qui regardaient le match, justement, au-dessus des terrasses. Mais non, on fait une minute de silence, éventuellement un petit discours. Le président pourrait se déplacer, mais je sais qu'il va pas venir probablement. Et puis on marque le coup et après on joue.
Marquer le coup et montrer que la vie continue. En tout cas, c'est votre point de vue, Daniel. Et effectivement, le président à l'époque, c'était François Hollande. Il était sur place dans le stade. Cette fois-ci, on verra si effectivement Emmanuel Macron y va. Merci, Daniel. Comme Daniel, vous n'hésitez pas. Vous connaissez le chemin. Le 32-16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il était autour de 19h hier soir à Tourcoing dans le Nord. Deux jeunes sur un scooter s'encastrent dans un poteau. Ils tentaient d'échapper à un contrôle de policiers municipaux, fuir en tout cas. Le conducteur de 16 ans est décédé, son passager est grièvement blessé. Bonjour Jean-Pierre Cloez. Vous êtes délégué syndical Alliance dans les Hauts-de-France. Un nouveau refus d'obtempérer qui vire donc au drame. Il faut absolument que les conducteurs prennent conscience des risques. C'est votre parti pris ce matin. Les toutes dernières informations avec vous dans un instant. Il est 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 sur RMC et sur RMC Story. Encore un refus d'obtempérer tragique. C'était hier soir à Tourcoing dans le Nord. Deux adolescents sur un scooter qui ont tenté de fuir un contrôle de policiers municipaux. Le conducteur de 16 ans est décédé. Bonjour Jean-Pierre Cloèze. Vous êtes délégué du syndicat des policiers Alliance dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé hier soir?
Bah écoutez, les collègues de la police municipale de Tourcoing ont voulu procéder au contrôle de ce jeune homme et de son camarade qui se trouvait sur un scooter. Il a emprunté un sens interdit, hein, il a refusé de se soumettre au contrôle et visiblement il est monté sur un trottoir pour éviter un véhicule qui arrivait en sens inverse et il a percuté un poteau, hein, et il a perdu la vie.
C'est donc le conducteur du scooter, 16 ans, qui est décédé.
C'est ça.
Son passager, 14 ans, est à l'hôpital. Est-ce que vous en savez plus?
Bah écoutez, il est à l'hôpital pour l'instant. Son pronostic vital n'est pas engagé. Hein. Il est blessé, évidemment. Mais heureusement pour lui, l'issue sera plus favorable que le conducteur, ce jeune homme de 16 ans qui a perdu la vie.
Alors, une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. C'est la procédure, même si il n'y a eu d'ailleurs aucun contact, même, il faut le préciser, entre les policiers et les deux jeunes en scooter. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'équipage des policiers municipaux était à 150 mètres du scooter au moment de l'accident. Hein.
C'est ça, oui. Bah donc oui, effectivement, il y a une enquête qui est ouverte, hein, mais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un refus d'obtempérer, c'est un danger mortel pour nos collègues, pour la population. On a une augmentation de 9% depuis janvier 2025. Ça fait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. C'est catastrophique, en fait.
Ça veut dire qu'une fois de plus, alors évidemment, on pense à Mathis, qui il y a 10 jours a été fauché par un conducteur qui lui-même fuyait un contrôle de police. Là, c'est le jeune homme qui lui-même devait faire l'objet de ce contrôle de police qui s'est tué. Quand on est policier aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'on hésite avant de devoir faire un contrôle de police?
C'est pas qu'on hésite, mais on n'est pas bien, surtout. Je pense que les collègues de la police municipale sont pas bien. Ils sont là ce matin. Ils doivent se poser des questions, comme à chaque fois, comme tous les policiers, savoir s'il aurait fallu faire autrement ou ne rien faire. Mais ne rien faire, si on ne fait plus rien, on est obligé de faire notre travail, d'assurer la sécurité des personnes, des biens. Voilà, parce que...
C'est censé être un des actes banals de votre travail, c'est-à-dire faire des contrôles de police, s'assurer que tout est en règle. Et cet acte banal est en train de se transformer, avec ses 9% de plus de refus d'obtempérer, en un acte dangereux.
Ouais, c'est ça, c'est dangereux. De toute façon, les auteurs... ont plus peur de la sanction, hein, puisque bah ils savent qu'ils risquent peu, mais c'est comme je vous le disais, c'est un danger qui est mortel, à la fois pour nos collègues qui sont blessés parfois sur ces refus d'obtempérer, pour les auteurs eux-mêmes et aussi pour la population, comme vous l'avez dit, ce pauvre Mathis qui a été percuté le soir de la nuit d'Halloween et qui a perdu la vie, il demandait rien à personne en fait. Il traversait juste avec son ami, et aujourd'hui les parents pleurent leur fils.
Les parents pleurent leur fils, et on avait d'ailleurs l'avocat qui était avec nous hier, et l'un des meilleurs amis de Mathis, celui qui organisait la marche blanche. Merci Jean-Pierre Cloèze pour ces dernières informations, délégué syndical Alliance Police Nationale dans les Hauts-de-France, qui est sûr, c'est qu'on sent bien que s'il n'y a pas la peur de la sanction, espérons qu'il y ait au moins la peur, en effet, de se mettre en danger, ou de mettre en danger des patients, et donc de s'arrêter lorsqu'il y a un contrôle de police. Il est 7h19 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, nous a rejoint. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, demain le pays va commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Le terrorisme, malheureusement, ce n'est pas récent.
Oui, le terrorisme hante la France depuis plus de 2 siècles, et avant les islamistes, c'était des militants anarchistes et d'extrême droite.
Vous nous le racontez dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h21 et on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, demain, la France va commémorer les 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. De nombreuses cérémonies sont prévues à Paris, notamment avec le président de la République. Pour vous, la France a toujours su se remettre des attentats terroristes et heureusement.
Oui, même si bien sûr rien n'égale les attentats du 13 novembre, ce sont les plus meurtriers de notre histoire, 130 morts. Mais la France affronte le terrorisme depuis plusieurs siècles. Ça ne faisait pas autant de morts, mais le traumatisme était bien réel.
De quand datent les premiers attentats terroristes ?
Alors, du tout début du 19e siècle, et le premier attentat à la bombe visait l'empereur Napoléon Bonaparte. Nous sommes le 24 décembre 1800, il est 8h du soir, Napoléon quitte son palais avec sa famille pour aller à l'opéra, c'était la tradition, et au moment où le cortège impérial passe dans la rue Saint-Nicaise, à côté du Louvre à Paris, une bombe explose, la stupeur est totale, on a voulu tuer Napoléon la veille de Noël, c'était un coup des royalistes.
Est-ce qu'il y a eu des morts ?
Alors Napoléon en a réchappé de peu, sa famille aussi, mais oui, l'attentat fait quand même 22 morts et une centaine de blessés. Napoléon, lui, décide de donner le change immédiatement après l'explosion. Il va à l'opéra pour montrer qu'il est inatteignable, comme si de rien n'était.
Ces attentats terroristes vont continuer ?
Oui, dans les années 1890, une vague d'attentats déferle sur la France. À l'époque, les terroristes ne sont pas des islamistes, mais des anarchistes d'extrême gauche, et ça ira très loin. Sous la Troisième République, un homme qui s'appelait Auguste Vaillant pénètre dans l'Assemblée nationale. Il balance une bombe dans l'hémicycle alors que les députés sont en pleine séance. Aucun mort, mais une centaine de blessés. Le président de l'Assemblée ne se démonte pas. 30 minutes après l'explosion, il déclare aux députés « Messieurs, la séance continue ».
Et au XXe siècle, d'autres attentats ont donc traumatisé la France. Hein.
Oui, évidemment, les causes n'ont pas manqué. En 1961, une bombe explose sous le train Strasbourg-Paris. 28 morts, 138 blessés, le plus meurtrier jusqu'au 13 novembre. On attribue cet attentat à l'OAS, l'Organisation pour la Défense de l'Algérie française. Donc cette fois-ci, c'était l'extrême droite.
Et depuis les années 80, c'est intense. Hein.
Oui, la liste est longue. Hein. 1982, attentat antisémite de la rue des Rosiers à Paris. 6 morts, 22 blessés. 1995, attentat islamiste dans le RER à Paris. 8 morts, 117 blessés. 2012, attentat islamiste de Toulouse et Montauban. 7 morts, 6 blessés, dont des enfants juifs et des militaires. Le terrorisme est une guerre de l'humanité contre la barbarie. Il faut sévir, combattre et continuer à vivre.
Et on mènera effectivement ce combat encore cette semaine avec les cérémonies. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h24, c'est l'heure d'Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Arnaud, vous êtes satiné de frais aujourd'hui. C'est satiné, c'est joli.
Tout à fait, c'est ma petite chemise blanche. Arnaud, dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet.
Ben voilà, c'est la fête en régie, hein. C'est l'idole des intermittents qui est là. Voilà, c'est leur Lady Gaga, eux, que vous recevez ce matin. C'est Queen Bee, c'est Queen Binet. Ils veulent tous un selfie avec elle. Il y en a même qui ont pris une douche. Alors qu'on n'est que mercredi, vous vous rendez compte, c'est la fête. Pour Sophie Binet, il y en a qui ont fait des gâteaux et tout, ils ont fait des financiers. Parce qu'ils ont dit, à la CGT, ils doivent kiffer de manger des financiers. T'as pas une feuille pour m'érouler. Bref, c'est l'enthousiasme. Alors, moins d'enthousiasme de l'autre côté du couloir, chez BFM Business, où habite le couple star des économistes, Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chypre, qui sont Emmanuel! Les voisins font du bruit.
Oui, je sais, c'est les punks de RMC, ils ont invité la CGT.
Oh là là ! Elle va encore nous refiler des punaises de lit, celle-là, ou pire, des idées de gauche.
Oui, oui, bon, on va aller déposer une main courante demain matin. Allez, reviens te coucher, Moumoune.
Alors, bah, il est 7h20, hein, y en a qui dorment encore. Alors, on va parler budget.
Edwige, si tu nous écoutes, je t'embrasse.
Désolé. On va parler budget, parce que dernièrement, le ministre de l'économie, Jean-Pierre Farandou, a proposé de réserver la prime de Noël uniquement aux familles qui ont des enfants. C'est méchant d'enlever 150 euros à des gens qui n'ont pas de famille. Comment ils vont s'acheter de quoi boire pour oublier qu'ils n'ont pas de famille à Noël? C'est dégoûtant et que leur vie, c'est l'enfer. Ah, c'est pas juste. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'en connaît pas. En plus, on a tous des neveux, des nièces. Mmh. Enfin, comment Jean-Luc Lay va faire un cadeau à sa meuf? On y pense à ça? Alors, Jean-Pierre Farandou a déclaré, je cite, « On souhaite recentrer cette prime uniquement à ceux qui croient encore au Père Noël ». Mais on croit tous au Père Noël autour de cette table. La preuve, on continue de voter. Alors qu'on sait très bien que voilà, nos bulletins de vote, c'est un peu comme les lettres au Père Noël. C'est pas vraiment lu par le destinataire, ça part direct à la déchetterie. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale débattra de la suspension de la réforme des retraites. Emmanuel Macron, il doit être devant sa télé. Non ! Non ! ma précieuse réforme. Et il va se changer en Gollum du Seigneur des Anneaux.
Ils ont volé le précieux. Le précieux. Sophie Binet doit mourir. Vous devez tous mourir. Les codes nucléaires, vite, les codes nucléaires. Ils sont là. Le code nucléaire, c'est 1, 2, 3, 4.
Oui, comme
nous. C'est le gars du Louvre qui l'a changé. Donc, enchanté de vous avoir connus tous, les amis. Peut-être à demain. Du coup, on ne sait pas.
Ou
en attendant,
ce sera
Sophie Binet à
8h30. Par exemple, on pourrait vous retrouver à 8h20.
Voilà. C'est encore les intermittents qui sont
changé
contents.
Ça a changé, hein.
À tout à l'heure.
Arnaud de Manche, à tout à l'heure. 8h20 et en podcast, évidemment, à tout moment. N'oubliez pas, c'est l'événement sur RMC. On vous offre 120 000 euros. 120 000 euros. Restez bien à l'écoute. À tout de suite. Il est 7h29 et il va faire doux, Géraldine.
Extrêmement doux, oui. On pourrait même s'approcher ou battre des records de douceur entre aujourd'hui et vendredi matin. Déjà cet après-midi, on attend jusqu'à 26 degrés à Biarritz, 28 même du côté d'Osgore. Il devrait faire 21 à Marseille, 19 à Lyon, 16 à Paris ou à Lille. Avec beaucoup de soleil sur le pays. Alors on peut quand même avoir un petit peu de pluie sur la pointe bretonne et puis également entre le golfe du Lion et le sud du massif central. Sinon ce sera donc du soleil avec un fort vent de sud.
Quel temps, quelle température aujourd'hui? Ne ratez rien des prévisions météo près de chez vous. Prochain bulletin dans une demi-heure sur RMC.
Il est 7h30 tout pile.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le dialogue est-il possible entre victimes et auteurs d'attentats? Oui, répond le parquet national antiterroriste qui plaide, c'est une information RMC, pour la mise en place d'un dispositif de justice restaurative. La suspension de la réforme des retraites débattue à l'Assemblée cet après-midi au dernier jour de l'examen du budget de la Sécu. Et puis harcèlement moral, licenciement abusif, l'ONG Médecins du Monde dans le viseur de la justice après les plaintes de plusieurs de ses salariés.
Salah Abdeslam pourrait-il bientôt faire face aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 auxquels il a participé?
En tout cas, la porte est ouverte 10 ans après les faits qu'on commémorera demain. D'abord parce que le seul survivant des commandos du 13 novembre en a exprimé le souhait. Son avocate l'a annoncé hier, mais aussi et surtout parce que, et c'est une information RMC, le parquet national antiterroriste y est favorable. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative. Ça consiste à faire se rencontrer des victimes et leurs agresseurs pour permettre la réparation d'une part et la prise de conscience d'autre part, et elle pourrait donc être étendue au terrorisme, Julie Brault.
Oui, d'après nos informations, le parquet national antiterroriste a proposé la semaine dernière à plusieurs associations de victimes du terrorisme de participer à un comité de pilotage sur la justice restaurative, un dispositif qui répondrait à une réelle demande, confirme Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris.
Il y a quelques personnes chez moi qui ont des envies de justice restaurative, qui ont envie de dire ce qu'ils ont sur le cœur. En clair, ils auraient envie de parler à des gens qui ont fait ça pour avancer. Ça arrivera dans les années à venir, ça me paraît évident.
Ce dispositif permettant aux victimes de rencontrer des auteurs d'attentats existent déjà dans plusieurs pays européens, comme en Belgique où Georges Saline s'est rendu en 2023. Lui qui a perdu sa fille au Bataclan y a rencontré deux terroristes condamnés pour avoir organisé les attentats du 13 novembre.
C'était important pour comprendre quels avaient été le mécanisme de leur motivation, de leur engagement. On réalise qu'on se trouve devant des individus assez ordinaires. Hein. Il y a un effet de démystification et donc si on avait peur de ces individus, quand on sort de là, on n'a plus peur.
Le père de famille, toujours armé de questions, espère désormais pouvoir les poser un jour à Salah Abdeslam, seul survivant du commando terroriste du 13 novembre 2015.
Une deuxième prison de haute sécurité bientôt en service en France à Condé-sur-Sarthe. Tous les premiers détenus vont être transférés dans les prochaines heures, annonce de Gérald Darmanin aux 20h de TF1 hier, près de 4 mois après l'ouverture de celle de Vendin-le-Vieil. Le ministre de la Justice qui est aussi revenu sur l'interdiction d'entrer en contact avec Nicolas Sarkozy, fraîchement sorti de prison. Le garde des Sceaux compte bien respecter le contrôle judiciaire de son ami, mais ne regrette pas du tout d'être allé lui rendre visite fin octobre à la Santé.
S'il était arrivé n'importe quoi à Nicolas Sarkozy, je rappelle qu'il a été menacé, il y a même eu des enquêtes et des perquisitions à la prison de la Santé suite à ces menaces. S'il avait été blessé, s'il avait été tué en prison, qui était responsable? Le chef de l'administration pénitentiaire, le ministre? Que s'il est arrivé quelque chose, le Parlement, les médias, la Cour de justice de la République m'auraient demandé des comptes. J'ai rempli mon rôle et je regrette en rien.
Il est 7h33 sur RMC et la suspension de la réforme des retraites est une hérésie. Voilà ce que dit ce matin le patron du MEDEF dans les colonnes du Figaro, Patrick Martin, qui regrette le rétropédalage du gouvernement, pourtant seul moyen d'assurer sa survie. Cet après-midi, la mesure sera débattue à l'Assemblée pour la dernière journée d'examen du budget de la Sécu et elle divise toujours autant à gauche comme à droite, Cyprien Pézril.
Une suspension de la réforme des retraites, revendication numéro 1 du PS, est désormais une victoire en ligne de mire, salue le porte-parole Romain Eskenazi.
Enfin, nous arrivons à une suspension qui va pouvoir ouvrir de nouveaux droits pour des milliers de Français. Il faut être satisfait que l'exigence du débat et du travail parlementaire porte ses fruits.
Les socialistes conspués par les insoumis, en permanence sous leur mégaphone, soufflent un élu. LFI votera contre la suspension, assume le député Aurélien Lecoq.
Il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites, c'est à peine un décalage. Il faut que chacune et chacun à gauche arrête de se faire enfumer.
La suspension de la réforme des retraites devrait être adoptée grâce aux voix pour du RN et à l'abstention des macronistes, concession de taille pour les soutiens du président comme Paul Midi, laisser détricoter la mesure la plus emblématique du quinquennat.
Est-ce que cette suspension des retraites, c'est une bonne idée? Non. Est-ce que c'est un pas nécessaire pour réussir à avoir un budget, de la visibilité pour les Français, pour les acteurs économiques? Oui, voilà.
Facture politique que refusent de payer certains membres de son groupe, comme l'ancien ministre Marc Ferracci. Il votera contre la suspension, tout comme les députés Horizon, les troupes d'Edouard Philippe.
Encore un drame en marge d'un refus d'obtempérer à Tourcoing où un adolescent de 16 ans est mort hier soir à scooter alors qu'il tentait de fuir un contrôle de police après avoir commis une infraction de la route. Son passager âgé de 14 ans a été hospitalisé. Médecins du Monde dans le viseur de la justice avec une dizaine de procédures engagées contre l'ONG et selon nos informations la moitié qui concerne du harcèlement moral et des licenciements jugés abusifs. Les faits dénoncés s'étalent entre 2019 et 2023. Et il concerne même les plus hauts cadres de l'organisation. Certains témoignent ce matin au micro RMC de Solène Leroux.
Une énergie positive, mais aussi des moqueries, des humiliations. Voilà comment cette ancienne présidente résume l'ambiance à Médecins du Monde lors de son mandat. Et ça, c'était avant de découvrir une conversation privée WhatsApp entre directeurs de l'ONG.
On me traitait régulièrement de connasse, de salope, enfin des propos très, très violents, très virulents et très insultants.
Un groupe sans aucune fonction officielle, précise Médecins du Monde. L'ancienne membre poursuit l'association pour harcèlement moral, entre autres comme cet ancien cadre dont la voix est modifié qui dénonce
régulièrement des insultes, des remarques à caractère sexiste, dénigrement, médisance.
Plusieurs témoins avec qui nous avons échangé partagent des récits similaires et parlent de systèmes d'alerte inefficaces qui se sont même parfois retournés contre eux, affirme-t-il.
Fondamentalement, les systèmes mis en place sont vérolés parce que la confidentialité n'est pas respectée.
Médecins du Monde explique que des tensions inédites ont existé pendant cette période. Depuis, les procédures de signalement se sont développées et le dispositif d'alerte sera de nouveau renforcé cette année, assure l'ONG.
Et puis une information RMC ce matin, elle concerne tous les voyageurs d'Île-de-France. La RATP va assouplir au 1er janvier sa procédure en cas de bagages oubliés. Désormais, les rames concernées seront déplacées et les trains pourront continuer de rouler, y compris si le bagage se trouve sur le quai. On y revient dans le journal de 8h.
Le quintet, c'est à 13h55 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Jadou du Lupin. L'outsider, c'est le 9, Hôtel Mystique.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui à 15h. Les députés vont débattre et voter de la réforme des retraites. C'est une première. Souvenez-vous, le passage à 64 ans était passé par 49.3. Bonjour David Amiel.
Bonjour.
Vous êtes ministre, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Je vous interrogerai bien sûr sur la suspension de cette réforme des retraites, mais également sur votre réforme et votre lutte contre les fraudes sociales, les fraudes fiscales. Vous venez les présenter sur RMC. Et puis je vous attends, vous qui nous écoutez, au 32-16 pour venir interpeller le ministre ou témoigner. Vous êtes peut-être fonctionnaire. La question aussi de la réforme des retraites, cette suspension, et de la fraude sociale et fiscale. Vos questions, vos témoignages au 32-16. Il est 7h37.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 7h40. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Story. Erreur fatale, hérésie. Le patron du MEDEF ne décolère pas sur le vote qui aura lieu cet après-midi sur la suspension de la réforme des retraites. Bonjour David Amiel.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Vous nous présenterez dans un instant votre plan pour lutter contre la fraude sociale et fiscale. Mais je ne peux résister à vous interroger sur ce qui va se passer tout à l'heure, à 15h. Vous, David Amiel, vous avez 32 ans. Vous avez toujours milité chez Renaissance. Vous êtes un macroniste de la première heure. Et votre parti, cet après-midi, s'apprête à laisser partir la réforme des retraites. Comment c'est possible ?
Est-ce que c'est facile pour nous ? Non. Mais est-ce qu'il était possible de faire autrement ? Non plus. Parce qu'il n'y a plus à l'Assemblée nationale aujourd'hui de majorité pour poursuivre la réforme des retraites. Et donc le gouvernement fait preuve à la fois de lucidité et de transparence, puisque le Premier ministre avait fait cet engagement dès les premiers jours de sa prise de fonction de resoumettre à l'Assemblée nationale la suspension de la réforme des retraites. C'était la seule manière de sortir d'une impasse qui sinon aurait
précipité... C'était la seule manière de vous maintenir, quoi. En fait, c'est surtout ça, non ?
C'est la seule manière, dans cette Assemblée actuelle, d'éviter une impasse qui sinon aurait conduit à une crise politique,
Patrick Martin,
crise institutionnelle.
Il la pose comme ça, exactement. Il dit avoir un budget et maintenir une forme de stabilité, ok, mais à quel coût ?
Le coût aujourd'hui de l'instabilité, d'une chute des gouvernements à répétition, d'une crise financière, d'une crise budgétaire, d'une incapacité à voter un budget aurait été bien supérieur en 2026.
Donc vous préférez tuer le macronisme
à la suspension de la réforme des retraites. Le bilan du macronisme, on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler.
C'était notamment cette réforme.
C'est aussi la baisse du taux de chômage, c'est la suppression de la taxe d'habitation, c'est l'investissement dans l'éducation, c'est l'investissement dans l'armée. Effectivement, cette réforme est suspendue parce qu'il n'y a plus aujourd'hui de majorité à l'Assemblée nationale.
Alors enfin, elle n'est pas encore complètement suspendue, mais en effet, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup de suspense. Elle devrait être votée, cette suspension, cet après-midi. Alors vous, le parti Renaissance, vous n'êtes plus évidemment député puisque vous êtes ministre, mais vous n'allez pas voter en faveur de la suspension, mais le fait de simplement vous abstenir la laisse effectivement passer. Le déficit des retraites, 15 milliards d'euros pour 2035, 30 milliards pour 2045, ça va encore alourdir la facture. Dans le même temps, vous venez de nous présenter des mesures pour aller trouver des milliards, mais d'un déficit que vous-même vous allez creuser.
Le statu quo n'est pas tenable à terme, vous avez raison de le dire. Il n'était pas possible aujourd'hui de poursuivre cette réforme, mais je crois qu'il faut en revanche poursuivre les travaux sur un changement du système. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'avec le vieillissement de la population, il faudra dans les années qui viennent une réforme des retraites. On voit aussi, vu la situation politique, vu la situation sociale, qu'on ne pourra pas se contenter de changer un paramètre, l'âge de départ, la durée de cotisation, mais qu'il faudra repenser l'ensemble du système pour le rendre plus juste. Ça fait partie des propositions qui sont faites d'ailleurs par le parti Renaissance, par d'autres forces politiques syndicales. C'est la raison pour laquelle aussi on a lancé une conférence avec le patronat et les syndicats pour proposer aux Français, bien sûr que si, beaucoup d'organisations patronales.
Le MEDEF n'y va pas, la CGT n'y va pas.
Le MEDEF a dit qu'il attendait la discussion budgétaire. Je fais le pari qu'il y reviendra. La CFDT, les organisations syndicales, fonction publique, fonction secteur privé, y participent. Ce sera un lieu important d'échange, de débat et de préparation aussi de la discussion.
David Amiel, un mot sur cette proposition, effectivement énoncée par Gabriel Attal, le président du parti Renaissance hier, avec cette idée d'aller vers une retraite par capitalisation, les 1000 euros dès la naissance de l'enfant. Et il y a un point qui vous concerne directement, qui est aussi l'idée que le point d'indice et les points qui seraient mis de côté tout au long de la vie professionnelle soient les mêmes, privés comme publics. L'idée, au fond, que la retraite soit la même pour les fonctionnaires que pour le privé. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Ça fait partie des pistes pour l'après. Il y en aura d'autres qui seront émises dans le cadre de cette conférence. À court terme, je suis favorable notamment à ce que pour la retraite des femmes, dont on sait qu'elles sont pénalisées par rapport aux hommes, on puisse avoir les mêmes mesures de justice dans la fonction publique que dans le secteur privé. Le conclave l'avait fait pour le secteur privé, en tout cas l'avait proposé. J'ai proposé, moi, qu'on améliore la retraite des femmes dans la fonction publique et ça fera partie des pistes sur lesquelles les parlementaires auront à se prononcer.
David Amiel, je rappelle que vous êtes le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Vous voulez mieux lutter contre la fraude, fraude sociale, fraude fiscale. On parle de quelle fraude ? On parle de quoi ? Qui fraude et avec quoi ?
On parle du business de la fraude, c'est-à-dire des professionnels de l'arnaque, de ceux qui industrialisent la fraude fiscale et la fraude sociale. On a eu des résultats ces dernières années.
Mais c'est quel genre de fraude ? C'est des fraudes à quoi ?
Bah, c'est de la fraude aux aides publiques, aux comptes personnels de formation. C'est la fraude fiscale la plus classique, la fraude aux impôts. C'est la fraude aux cotisations sociales. C'est la fraude au remboursement de l'assurance maladie. C'est l'ensemble de ces fraudes. Et effectivement, c'est la première fois qu'on a un projet de loi qui couvre l'ensemble des fraudes fiscales, sociales, aux cotisations et aux prestations.
Vous allez défendre ce projet aujourd'hui. Je vois d'ailleurs, dans les différents points de votre projet de loi, qu'il y a par exemple l'idée de taxer une taxation plus lourde des revenus issus d'activités illicites. Ça marche comment ça ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe à se dire qu'il y a des activités illicites et qu'en même temps on pourrait les taxer. Comment on fait ?
C'est pour pouvoir récupérer l'argent plus vite, en attendant évidemment que la procédure pénale permette de condamner les personnes, de leur imposer des lourdes amendes. Le point essentiel de ce projet de loi, c'est de s'adapter au changement technologique. Parce qu'aujourd'hui, les délinquants peuvent avoir un temps d'avance. Avec cette loi, on remet la technologie du côté de la loi, pas du côté de la fraude. C'est la raison pour laquelle...
Vous allez utiliser l'intelligence artificielle ?
Notamment, c'est la raison pour laquelle on aura, par exemple, de la géolocalisation dans les transports sanitaires pour s'assurer que quand on rembourse des actes, ils ont fait des trajets, ils ont effectivement été réalisés. C'est la raison pour laquelle on va permettre des échanges d'informations entre l'assurance maladie et les complémentaires santé pour s'assurer que quand on rembourse des actes médicaux, ils ont bien été réalisés. Et si ce n'est pas le cas, on pourra sanctionner beaucoup plus dur, beaucoup plus fort les professionnels qui fraudent en imposant à la fois une amende administrative et un déconventionnement de la sécurité sociale.
C'est très intéressant ce que vous dites, la géolocalisation, pour prendre cet exemple, des transports médicaux. Ça veut dire que vous allez en quelque sorte fliquer à la fois le malade et le taxi, éventuellement si c'est un taxi qui effectue ce trajet. Ça veut dire que vous considérez que la fraude, elle est à la fois du côté des usagers et du côté des professionnels ?
Bah, il y a une fraude du côté d'une infime minorité de professionnels, mais oui, il y a des professionnels de la fraude. Et c'est ça qui aussi dégrade les comptes de la sécurité sociale. L'immense majorité des personnes professionnelles et particulières ne sont pas fraudeurs. Mais justement, pour pas qu'on jette la suspicion sur l'ensemble de notre système social, il faut pouvoir réprimer beaucoup plus fortement les fraudeurs. Il faut aussi pouvoir réprimer ceux qui les encouragent à frauder, ceux qui montent des schémas, ceux qui vont sur YouTube, TikTok, vous apprendre à frauder. Pour cela, on ira jusqu'à 7 ans de prison. C'est très important de pouvoir
7 frapper. 7 ans de prison pour ceux qui, effectivement, donnent en quelque sorte les modes d'emploi des tutos fraude.
Pour les tutos fraude, pour les officines qui se spécialisent dans le montage de schémas frauduleux. Contre cela, il faut pouvoir
des
frapper
des faux arrêts maladie ou trouver facilement sur Internet, tout cela.
Exactement, ou des kits pour pouvoir mettre en place une fraude fiscale. Il faut pouvoir frapper beaucoup plus fort contre ces personnes qui facilitent et qui accélèrent la fraude.
La défenseuse des droits, Claire Hédon, pointe les risques d'atteinte aux droits des libertés. Est-ce que vous entendez cette critique ?
Bah, il y a des débats dans les deux sens. J'ai vu aussi des sénateurs qui souhaitent aller beaucoup plus loin que le projet de loi. On aura le débat au Parlement. Moi, je crois que cette lutte contre la fraude fiscale, la fraude sociale, elle est extrêmement importante. Elle est très attendue des Français. On ne peut pas demander des efforts aux gens sans commencer par frapper beaucoup plus vite et beaucoup plus
et
fort
David Amiel,
contre ceux qui ne respectent pas le contrat républicain.
Les auditeurs réagissent en direct, Mathieu. Ouais,
J'ai le message de Yannick, notamment sur le WhatsApp RMC, qui nous écrit « Je suis maçon, j'ai 46 ans, je me lève tous les matins presque en pleurant tellement j'ai mal au dos et tous les matins, je dois me gaver de cachets à base d'opium pour me soulager. Pour autant, je suis contre la suspension de la réforme des retraites. Je pense que la comédie a assez duré et qu'il faut qu'on mette de la capitalisation au cœur du jeu. Depuis des années, on voit que nombre d'actifs baissent par rapport aux retraités et pourtant, on ne fait que bricoler. Laurent nous dit un message dans le même sens, beaucoup plus court. Ce n'est pas une réforme, c'est un ajustement technique. Il n'y a pas de changement sur le mode de fonctionnement des retraites, nous dit Laurent.
Qu'est-ce que vous répondez, David Amiel ?
Je pense qu'il pointe quelque chose de très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir repenser l'ensemble du système pour le rendre plus juste, pour l'adapter à la nouvelle donne démographique. C'est la question de l'introduction, d'une part, de capitalisation, non pas à la place de la répartition, mais en plus du système par répartition, parce qu'effectivement, la démographie n'est plus la même qu'au moment où on a inventé ce système dans l'après-guerre.
Vous vous sentez pas un peu schizo, beaucoup
plus nombreuses.
Je veux dire, dans la même journée, vous allez à la fois finalement soutenir cette suspension de la réforme de retraite, qui est une des réformes pour lesquelles vous vous êtes le plus battu. Vous commencez déjà à imaginer une autre façon de faire les réformes des retraites, et en même temps, vous ne combattez pas cette suspension-là, qui était la seule réforme du système actuel. Bref, comment vous faites dans votre tête ? Enfin, moi, j'ai du mal quand même à comprendre cette défense de la politique. Presque du pire
mais
pour vous-même.
Je crois que les gens, ils comprennent très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée.
Ils comprennent très bien qu'il n'y a plus de conviction.
Ils comprennent surtout qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, si chacun arrive campé sur ses dogmes, sur ses certitudes, refuse de tendre la main, refuse de voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'aucun camp n'a gagné les dernières élections, que personne n'est capable de mettre en œuvre l'ensemble de son programme, et ben on ira
dans le mur. Mais Horizon, par exemple, va voter contre.
Effectivement,
c'est peut-être plus cohérent.
Effectivement, des compromis, ça veut dire pouvoir tendre la main, accepter des choses qui ne sont pas ce qu'on préférerait faire si on était en majorité absolue, mais faire preuve aussi de responsabilité. Je crois que c'est à ça aussi que les Français nous appellent, qu'ils en ont précisément marre de ces politiques qui font semblant d'être les seuls à avoir une majorité absolue, d'être les seuls à pouvoir mettre en œuvre leur programme. Ils ont conscience qu'il faut qu'on puisse s'entendre si on ne veut pas que le pays aille dans le mur.
Merci beaucoup David Amiel d'avoir répondu à mes questions et à celles des auditeurs ce matin. Vous êtes ministre de la fonction publique et de la réforme d'État. Il est 7h51.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans deux minutes, c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy. Donald Trump s'en prend à la France sur Fox News.
Nous avons eu beaucoup de problèmes avec les Français qui nous imposent des taxes de 25% sur les produits américains.
Louis, est-ce que le président américain a raison ?
Écoutez, Trump fait du America first, à nous de faire la France d'abord.
Vous nous le dites dans un instant, à tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est le retour surprise de Jean-Jacques Goldman que vous nous racontez ce matin.
Eh oui, hier 11 novembre, Apolline, avec un clip dans lequel il apparaît. Évidemment, ce n'est pas lui qui chante. Vous ne le saviez sans doute pas, mais le chanteur de 74 ans, retiré de la scène et des médias, est désormais ambassadeur du Bleuet de France, l'association d'anciens combattants qui récolte des fonds. Et pour le centenaire du choix du Bleuet comme symbole, un clip de cette chanson que vous entendez vient d'être dévoilé. Elle avait été jouée déjà au défilé du 14 juillet dernier. Jean-Jacques Goldman a écrit cette nouvelle chanson du pur Goldman, hein. Franchement, on reconnaît le style. Il a aussi adressé une lettre aux Français dont on retrouve l'essentiel dans les paroles de la chanson. Un hommage à ceux qui nous protègent, un rappel du fait que la liberté doit être défendue. Ce sont deux anciens gendarmes qui chantent cette chanson et qui l'interprètent. D'ailleurs, un des deux membres du duo, elle, Héloïse, était l'invitée de BFM TV hier soir et elle a interprété sa chanson, guitare-voix simple, avec Olivier Truchot et Alain Marchal sur BFM TV. C'était hier soir.
On n'a pas de paix sans gardien, contre les vents, les courants mauvais. Ensemble, on résistera.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h54 sur RMC et RMC Story ce matin. C'est donc la voix de droite. Bonjour Louis Sarkozy. Louis,
bonjour,
dans
Apolline.
Une interview à Fox News, Donald Trump attaque les Français qui, je cite, ne valent pas mieux que les Chinois. Il affirme aussi qu'il a beaucoup de problèmes, je cite, avec la France, en cause nos taxes sur les géants du numérique. Et le ton était au minimum musclé. Louis, ça vous inspire quoi ?
Bah écoutez, Trump fait du Trump, il choque, il provoque, il exagère, mais derrière la brutalité, il y a toujours une espèce de logique avec lui. Ce qu'il reproche à la France au fond, c'est d'avoir osé s'attaquer aux géants américains, à leur monopole technologique et fiscal en clair. La France a voulu rétablir un minimum d'équité, et ça, Trump ne le supporte pas.
Enfin, tout de même, quand même, comparer la France à la Chine, c'est assez violent, et on le sent d'ailleurs dans le ton du président américain. La Chine espionne, elle vole des brevets, et Trump le sait très bien.
Oui, c'est là que la comparaison devient parfaitement absurde. La France, elle respecte le droit, protège les libertés, du moins de temps en temps, et défend une vision du monde fondée sur la souveraineté et la justice. Si taxer les GAFAM, ça veut dire qu'on est comme la Chine, alors pour une fois, soyons fiers d'être coupables.
Donc selon vous, c'est un geste politique en fait ?
Oui, c'est une réaction de puissance vexée. Trump veut rappeler que dans sa vision, l'Amérique commande et les autres suivent. Or, la France, avec Macron maintenant, mais avec d'autres avant, a eu le courage de dire cette fois non, de dire nos intérêts, notre fiscalité, nos règles ne se décident pas à Washington. C'est ça, au fond, qui le dérange, une France indépendante qui assume de défendre cette fois ses producteurs, ses emplois ou ses principes.
Vous semblez presque le défendre.
Non, Apolline, je l'explique, je préfère de loin faire cela plutôt que le défendre. Trump est cohérent avec sa vision America first. À nous d'être cohérents avec notre vision, la France d'abord. La vérité, c'est que chaque fois que la France relève la tête, qu'elle parle d'égal à égal avec les États-Unis, elle s'expose à des attaques de ce genre. C'est vrai avec Trump, comme ce l'était jadis avec d'autres présidents américains. Mais c'est ça le prix de la liberté. Et Dieu sait que la liberté n'a pas de prix.
Alors au fond, Trump ne parle pas seulement de taxes, il parle de puissance.
Exactement. Et il teste aujourd'hui la nôtre. Il veut voir si la France plie ou si la France tient sur cette question épineuse. Eh bien, qu'elle tienne. La France n'est ni un vassal, ni un client. C'est une nation souveraine, certes amie de l'Amérique, mais libre. Et s'il fallait rappeler à M. Trump qu'il sache que l'histoire du monde s'est souvent écrite avec nous et jamais sans.
Merci Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. Demain, place à la voix de gauche, ce sera Cécile Duflo. Il est 7h56, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal, à la une du journal de 8h. C'est le jour J pour le vote sur la réforme des retraites. On fera les comptes dès le début du journal. Cette suspension devrait passer. Vos réactions, vous n'hésitez pas à nous appeler et à témoigner au 32-16. Et puis la météo, beaucoup de soleil et de plus en plus de douceur. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h. Excellent réveil, très belle journée sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est enfin aujourd'hui que les députés vont débattre de la suspension de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale au tout dernier jour de l'examen du budget de la Sécurité sociale. On va y revenir. Emmanuel Macron va passer la journée à Toulouse. Pourquoi ? Pour rencontrer les agriculteurs et pour relancer aussi un format façon grand débat. Et cette information qu'on vous révèle ce matin sur RMC, la RATP va alléger la procédure en cas de bagages oubliés. Vous savez, ces bagages qu'embêtent tout le monde dans les transports en commun.
Il aura donc fallu attendre le dernier jour de l'examen du budget de la Sécurité sociale pour que soit abordée la suspension de la réforme des retraites.
Avec le débat aujourd'hui et le vote aussi, c'est certainement celui que tout le monde attend. On se souvient que le Premier ministre Sébastien Lecornu avait promis cette suspension pour échapper à la censure. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC en direct ce matin. D'abord, avant toute chose, rappelez-nous qui est concerné.
Alors vous êtes concerné si vous êtes né entre 1964 et 1968. Vous pourrez partir 3 mois plus tôt pour les premiers à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans. En fait, l'application de la réforme est figée sur l'âge et sur la durée de cotisation jusqu'au 1er janvier 2028, le temps de laisser la présidentielle trancher. Les salariés en carrière longue et certains fonctionnaires comme les hospitaliers, les sapeurs-pompiers, les policiers qui partent déjà plus tôt en profiteront aussi. C'est l'ultime concession du gouvernement à la gauche qui pourtant ne votera pas comme un seul homme. Certains vont s'abstenir, les insoumis voteront contre. Ils réclament l'abrogation pure et simple. En fait, cette suspension sera validée tout à l'heure par les voix du PS et du RN et à la faveur de l'abstention des macronistes qui, résignés, vont laisser détricoter leur réforme au nom du compromis.
Alors Sébastien, le gouvernement insiste depuis le début sur la question du financement de cette suspension de la réforme des retraites. Après là, tous les débats, est-ce que le compte est bon ?
Alors à ce stade, non. Et la concession sur les carrières longues pourrait même multiplier le coût par 3 l'année prochaine. On parle de 300 millions d'euros en 2026 et ça pourrait atteindre 2 milliards en 2027. Le gouvernement avait proposé 2 mesures, une contribution demandée aux mutuelles et le gel des pensions de retraite. La première a déjà été retoquée par les députés. La deuxième a toutes les chances de subir le même sort. Elle sera soumise au vote ce soir. Et une large partie de l'hémicycle refuse de toucher aux retraités. Voilà ce qui fait dire au patron du MEDEF que tout cela est une hérésie. Argument entendu par les sénateurs qui ont prévu de rétablir la réforme. Tout va donc se jouer lorsque le texte reviendra à l'Assemblée au mois de décembre. Vous voyez, le chemin est encore long.
On voit ça effectivement. Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC. Pendant ce temps, Emmanuel Macron va donc passer la journée à Toulouse. Elle était prévue de longue date, cette journée, pour un échange façon grand débat, en quelque sorte, avec des lecteurs du journal La Dépêche du Midi sur la thématique des réseaux sociaux et des algorithmes qui mettent à l'épreuve la démocratie. C'est un sujet présidentiel, estime Emmanuel Macron. Mais en plus de ça, dans la foulée, c'est RMC qui vous l'a révélé, Emmanuel Macron va rencontrer les syndicats d'agriculteurs. Ils sont en colère depuis qu'ils ont entendu le président dire, c'était le week-end dernier, qu'il était finalement plutôt positif à l'idée d'accepter l'accord de libre-échange du Mercosur entre les pays européens et sud-américains. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de Toulouse ce matin pour RMC. Les agriculteurs profitent donc de la visite du président pour se mobiliser. Ils ont des choses à lui dire.
Oui, c'est ça. Ils veulent une clarification et le mieux, c'est d'en parler avec Jérôme Bail qui fera partie de cette délégation reçue tout à l'heure par le chef de l'État. Vous attendez quoi, Jérôme Bail, du chef de l'État tout à l'heure ?
Eh bien, on attend tout simplement qu'il nous des explications par rapport à ses propos qu'il a eu au Brésil la semaine dernière. Donc nous, un double discours, on n'en veut pas. Devant nous, il nous garantit qu'il est contre l'accord du Mercosur. Et la semaine dernière, quand il est, on va dire, à l'extérieur, il dit que lui, il est pour. Donc on veut des explications sur ça et on veut des explications de savoir qu'est-ce qu'il compte faire de l'agriculture française et encore plus occitane, parce que on croule encore sous les normes et on nous en rajoute encore à chaque fois, quoi.
Voilà, les agriculteurs qui se mobilisent ici, Quentin, depuis quelques minutes, les tracteurs qui sont en train moyens d'arriver à proximité de ce rond-point pour cette mobilisation qui devrait durer toute la journée. S'ils n'ont pas de réponse, ils menacent de bloquer Toulouse ce soir.
On les entend, les tracteurs derrière vous, Jean-Wilfried Forquès, en direct de Toulouse ce matin pour RMC. À Tourcoing, dans le Nord, et c'était l'information de la soirée, un jeune de 16 ans est mort hier à scooter. Il refusait de s'arrêter à un contrôle de la police municipale après un délit routier. L'indignation désormais du maire de Verdun dans la Meuse, la ville dont le nom est évidemment lié à la Première Guerre mondiale. Romain, vous allez tout nous expliquer pour RMC. Une messe d'hommage à Pétain était prévue samedi dans une église et le maire donc a pris un arrêté pour l'interdire.
Je tiens à vous faire part de mon dégoût et de ma très vive colère. Voilà les mots du maire de Verdun, Samuel Hazard, dans un communiqué qu'il publie sur ses réseaux sociaux, annonçant donc avoir pris un arrêté interdisant cette cérémonie. Un hommage organisé par l'association pour défendre le maréchal Pétain, c'est son nom, l'ADMP, qui explique de son côté avoir obtenu l'autorisation écrite du vicaire apostolique, en clair le chef religieux du territoire, pour l'organisation de cette messe. Messe qui, selon le maire de la ville, va générer à l'évidence des troubles à l'ordre public. Jamais je n'accepterai qu'une messe soit célébrée à Verdun en hommage à Pétain, poursuit-il. Philippe Pétain, frappé d'indignité nationale en 1945, a été déchu, entre autres, de son grade militaire après avoir été chef du régime de Vichy, qui collabora avec l'Allemagne nazie. L'association qui a fait part à la mairie de son intention de saisir le tribunal administratif pour contester l'arrêté d'interdiction.
Si on avait pu éviter ça, ça aurait été bien. Voilà ce que dit Didier Deschamps à propos du match de l'équipe de France de football demain soir contre l'Ukraine, un 13 novembre, 10 ans jour pour jour après les attentats de Paris et de Saint-Denis aux abords du Stade de France. Et alors 10 ans après, malgré la menace terroriste qui est toujours très élevée, à Paris et en banlieue parisienne aussi, la RATP assouplit sa politique en matière de bagages oubliés dans les transports. C'est la principale cause de perturbations sur le réseau. Il y en a en moyenne 7 par jour, des bagages oubliés, avec à chaque fois des retards. Bref, ça embête tout le monde et c'est une info RMC que vous nous révélez, Victor Joannin. La procédure à la RATP va changer à partir du 1er janvier.
Oui, aujourd'hui, en cas de bagages abandonnés, la rame est évacuée, elle reste à quai et le trafic est interrompu le temps que les démineurs interviennent. À partir du 1er janvier, ce sera différent, sauf si le bagage est visiblement dangereux, c'est-à-dire qu'il contient une bouteille de gaz, par exemple. La rame pourra être déplacée jusqu'à une voie de garage avant l'intervention des démineurs pour libérer le passage pour les trains suivants. Et si le bagage est découvert sur un quai, les métros ou RER pourront continuer à passer par la station sans s'arrêter, bien sûr. Les perturbations créées par les bagages oubliés sont dangereuses car les voyageurs se précipitent dans des rames saturées, se justifie la RATP dans sa note. Aberration sécuritaire, répond le syndicat Force Ouvrière, qui rappelle que la France est toujours placée en urgence attentat, c'est-à-dire le niveau maximal du plan Vigipirate.
Bon, et alors c'est la reprise du boulot hein, pour les nombreux Français qui ont fait le pont lundi, mardi et qui auraient bien aimé surtout que ça continue. Géraldine Demory, on va sûrement battre aujourd'hui des records de température pour un mois de novembre.
28 degrés attendus cet après-midi à Osgore, c'est 12 degrés au-dessus des températures habituelles à cette saison. Ce qui se passe, c'est qu'on a en ce moment une dépression qui est sur l'Atlantique, elle s'appelle Claudia. Et alors à cause de sa position, on a un flux de sud sur la France qui propulse une masse d'air extrêmement douce pour la saison. Demain, on devrait encore atteindre 27 degrés à Oloron-Sainte-Marie, mais la chaleur va aussi gagner les régions plus au nord, avec 22 degrés prévus à Bourges, 19 à Paris. Effectivement, ce serait une chaleur jamais vue aussi tard dans l'année, l'après-midi comme le matin d'ailleurs. De quoi faire penser à un été indien, c'est même si en France, en fait, le terme exact, c'est l'été de la Saint-Martin. En fait, c'est un repère pour les agriculteurs. Ça signifie que jusqu'à la Saint-Martin, on peut avoir encore des pics de douceur, donc autour du 11 novembre.
Voilà, donc on ne parle pas d'été indien, mais d'été de la Saint-Martin.
Été de la Saint-Martin. Il est 8h08, c'était le journal de Quentin Vinet. On va partir au 32-16. Damien qui nous appelle de Nice. Bonjour Damien.
Bonjour Apolline.
Damien, vous êtes syndic d'immeubles, vous vouliez réagir sur la question des retraites, le fait que ce soit suspendu, la réforme aujourd'hui, vous en pensez quoi vous ?
Oui, tout à fait. Mais, alors pour être très honnête avec vous, moi je trouve que tout le monde, enfin comme je disais sur le WhatsApp, tout le monde se braque sur l'âge de départ à la retraite. À mon avis, la vraie question c'est de se concentrer pour que les jeunes travaillent le plus tôt possible et qu'on cotise le plus tôt possible. Mmh. Pour vous donner mon cas personnel, moi j'ai été étudiant, j'ai fait 5 ans de droit, j'ai cumulé les jobs étudiants, ouais. Et pas longtemps en regardant mes droits à la retraite, j'ai vu que j'étais éligible au dispositif des carrières longues.
Mmh. Parce que vous avez commencé à bosser parallèlement à vos études.
Exactement. Donc je pense que au lieu de garder l'âge de la retraite comme un totem certains 60, 62, 65, 67. Il faut vraiment se focaliser sur le travail des jeunes et la possibilité de cotiser le plus tôt possible.
Vous avez peut-être entendu d'ailleurs, Damien, hier, mon invité, l'économiste Jean-Hervé Lorenzi, qui disait au fond, la question n'est même plus, en effet, l'âge ou pas l'âge, c'est de réussir à faire travailler plus tôt et plus tard. C'est-à-dire, il dit, en fait, on travaille au milieu de la vie, on travaille très bien, on est très productif. Le problème, c'est l'entrée trop tardivement sur le marché du travail. Et surtout, on en part trop tôt, le travail des seniors. Merci beaucoup, Damien. N'hésitez pas à nous rappeler, comme Damien a témoigné au 32-16, il est 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans la demi-heure qui vient, l'économie, ce sera avec Emmanuel Lechypre. Les Français hésitent à faire des travaux de rénovation énergétique et on les comprend parce qu'ils trouvent que c'est non seulement trop cher mais aussi trop compliqué. Il y aura aussi l'invité du face-à-face, c'est à 8h30, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Est-ce qu'elle est favorable à cette suspension de la réforme des retraites? LFI va voter contre, par exemple. Ça paraît assez paradoxal, je lui pose la question donc à 8h30. Et puis juste après, il y aura face à Canteloup, vous le savez, Nicolas Canteloup qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC. 8h10, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC. Et RMC Story, c'est l'heure de parler économie et logement.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Lechypre est avec nous. Les Français jettent l'éponge en matière de rénovation de leur logement.
Eh bien oui, Apolline, plus de 4 propriétaires sur 10 qui aimeraient démarrer des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Principalement, évidemment, pour les rendre plus confortables et plus économes en énergie, pas tellement pour des raisons environnementales, ces propriétaires renoncent finalement à leur projet, donc 4 sur 10. Et dans 7 cas sur 10, ces propriétaires renoncent à ces travaux pour des raisons financières. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de loin la proportion la plus élevée de toute l'Europe. Il n'y a pas un pays où on renonce autant à des travaux de rénovation qu'en France pour des raisons financières. C'est ce que nous dit l'Observatoire de l'Habitat qui vient de publier cet LM1.
Mais alors, qu'est-ce qu'on a de pire que les autres? Qu'est-ce qui bloque chez nous?
Alors, c'est pas tellement... Alors, le coût des travaux, oui, mais il n'est pas fondamentalement plus cher que chez nos voisins à niveau de vie comparable. Non, au-delà du prix, c'est le flou sur le coût réel des travaux à prévoir qui est jugé paralysant. Et là, bien plus qu'à l'étranger, et notamment parce que le maquis des aides est bien plus dense qu'ailleurs. Un Français sur 10 seulement sait comment solliciter les dispositifs auxquels il a droit, et ça se comprend puisque au-delà des classiques MaPrimeRénov, il y a plusieurs dizaines de dispositifs d'aide qui existent. Et en plus, ces dispositifs nécessitent souvent d'avancer les fonds, faute de mécanismes plus innovants qui existent par ailleurs en Europe. C'est possible d'avoir des avances, c'est possible que le paiement se fasse directement aux artisans. En France, c'est encore compliqué.
Bah oui.
En plus,
ça change tout le temps. C'est étonnant, vous nous dites que finalement, c'est peut-être ils savent mieux faire ailleurs.
Là-dessus, ils savent mieux faire ailleurs. On sait souvent mieux faire ailleurs, oui.
C'est ça, d'autant plus que ceux qui ont fait effectivement leurs travaux, la plupart du temps, en sont satisfaits.
Ben, c'est ça qui est paradoxal. Les 3/4 des familles jugent que la baisse de leur facture énergétique après travaux correspond à leurs attentes, voire les dépasse, entre 10 et 30% de baisse. Alors, les travaux les plus rentables, c'est le changement de chaudière ou l'isolation des combles. Ça, c'est rentabilisé en 5 à 9 ans, nous dit l'ADEME. Est-ce que vous savez quel est l'investissement le plus long à rentabiliser? Je suis sûr que vous allez être surpris. Eh ben oui. Eh ben oui, Pascal, les fenêtres à double vitrage, ça paraît l'investissement le plus raisonnable, le plus rationnel, et pourtant c'est celui qui est le plus long à rentabiliser.
Merci Emmanuel Lechypre.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est Arnaud Demange qui rentre dans ce studio.
Bonjour à tous les amis. Alors tiens, on va parler maternité puisque Apolline, Pascal, Géraldine, Mathieu, vous êtes toutes mères de famille.
Surtout Mathieu.
Il a son chignon. Maman.
C'est
drôle. Oh là là, mais oui, toute notre enfance, parce qu'on est des jeunes vieux maintenant. Ouais. Alors, des vieux jeunes. À ce titre, vous inquiétez donc de l'avenir de vos enfants. Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Gabriel Attal propose 1000 euros par enfant. J'ai appris ça hier. Oui. Je faisais mes courses au BHV et j'entendais les gens qui discutaient, qui disaient 1000 euros par enfant. Bah, c'est cher, alors que pour 180 euros, on a une poupée chine toute neuve. T'as vu, Mimille, qu'ils en vendaient au 7e étage, maintenant, à côté de la poupée sexuelle en forme de canard. Tu l'as testée, celle en forme de canard, ça fait... Waouh.
Quand tu l'utilises, j'en dirais un vrai. Vous avez vu, Apolline, 50 conservatoires pour faire ça. J'ai fait de hautes études. Mes parents sont ravis. Alors donc, il y a une petite confusion, messieurs. C'est pas 1000 euros par enfant dans ce sens-là. C'est 1000 euros que l'État verse. Si vous faites un enfant, vous gagnez 1000 euros. Vous êtes donc payé pour faire l'amour. Et ça a changé parce que d'habitude, c'est moi qui paye 1000 euros, me disait Patrick Sébastien, toujours pertinent. Donc, c'est 1000 euros que l'État dépose pour lui sur un plan d'épargne retraite. Et vous pouvez verser des sous dessus. C'est dommage pour vous, Apo, c'est pas rétroactif.
Oui, c'est ça, j'espère.
C'est con, hein, 4000 balles, ça fait toujours du bien. Ouais. Non, non, là, c'est 1000 euros par nouveau-né. Ouais. Comme ça, il aura un capital de... Waouh, 1200 euros à son départ à la retraite. À 75 ans, ce sera la durée légale en 2099. Il n'aura pas plus, hein, parce que tous les Français sont frochés, on va rien mettre dessus. Et avec ces 1200 euros, eh bien, compte tenu de l'inflation, il pourra s'acheter un menu Big Tasty au McDonald's. Bon, en vrai, c'est alléchant, ces 1000 euros. Il est pas con, Attal. Avec ça, il veut viser la présidentielle de 2043. Et chers électeurs, n'oubliez pas, hein, c'est moi qui vous ai donné 1000 euros à la naissance. Hein. C'est moi. Alors sachez que la proposition fait des petits. Le monsieur économie du RN, Jean-Philippe Tanguy, n'est pas en reste, puisque nous, on propose pour chaque enfant immigré qui repart au pays, 1000 euros s'il repart avec ses parents, ses cousins, sa famille, sa poussière, ses tapis et tout le bordel. Et hop, la Renault 12, on rentre au pays, lelela. Et après, t'emmènes tous tes amis, lelela. Tu finiras tes jours là-bas. Waouh, waouh, waouh.
Nicolas Sarkozy va passer ça.
C'est le crossover le plus improbable.
Nicolas Sarkozy a passé sa première journée hors de prison hier.
Et oui, le plus dur commence pour lui maintenant. La réinsertion, il faut se réhabituer à une société qui a changé. Non mais ses repères vont être tout chamboulés, il va être là. Carlita, tu sais quoi ? Je voulais t'acheter des beaux vêtements au BHV et j'ai entendu des bruits de canards dans les cabines d'essayage. Oh mon chéri, les choses ont tellement changé depuis 20 jours. Je te jure, ça faisait...
Oh non.
Je le fais bien. Quelqu'un disait Saturnin, mon amour. Ces deux gardes du corps ont également été libérés, mais eux sans contrôle judiciaire. Heureusement, vous imaginez, bah les gars, vous devez pointer au commissariat deux fois par semaine. Mais c'est là qu'on bosse, ça a aucun sens. Nicolas Sarkozy a interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. Alors là, Emmanuel Macron, il doit être jaloux. Je suis sûr qu'il a appelé les juges en disant, eh dites donc, je peux avoir ça moi aussi. Ne pas être en contact avec mes ministres tout nuls là, tous. Tous ceux qui sont passés. Au moins Bruno Le Maire. Au moins.
Oui, parce que président, je vous avais écrit une lettre pour vous prévenir de la dette.
Ah, il est encore là. Dégage. Il m'appelle 5 fois par jour, celui-là. Il est pire qu'un numéro en 0162, le gars.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron répondra aux questions de 250 lecteurs de la Dépêche du Midi.
Eh oui. Un homme impopulaire qui répond aux questions de 250 personnes qui le détestent. On dirait PPDA devant ses accusatrices. Alors, à quoi ça va ressembler, cet échange? Alors, président, vous le savez, à Toulouse, il y a un débat. Pour vous, on dit chocolatine ou pain au chocolat? C'est une vraie question, ça? On peut avoir quelqu'un d'autre?
Ouais, moi. Alors, nous, on est embêtés avec le Mercosur, parce que vous aviez dit aux agriculteurs que vous signerez pas. Et t'as signé, Pichoun.
Oui, oui. Alors d'abord, la question sur la chocolatine, parce que le sujet est important. Derrière la déconne, je sens qu'il y a un vrai sujet.
Non, 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 le Mercosur. Nous, on ne peut pas faire de concurrence aux volailles de l'étranger. Hein. Tiens, nous, ici, on fait du foie gras. Mmh. Eh bien, hier, je suis allé au BHV Toulouse, place du Capitole, et j'entends... Et j'ouvre le rideau, et le gars, il gave un canard en plastique chinois. C'est de la concurrence déloyale.
Allez, courage, Emmanuel. On sent que les questions vont être très pointues, très compliquées. À demain. Gros bisous.
À demain. Merci, Arnaud. Arnaud Demange, que l'on retrouve donc à tout moment en podcast et sur RMC. Et RMC.fr. Mais qu'est-ce que c'est que cette alerte? C'est l'alerte! Adrien Aigouin est entré dans ce studio. Mais
c'est le super moscato. Ça va, je m'incruste, désolé, je suis en mission au nom du super moscato show, au nom d'RMC, pour porter bonheur aux auditeurs. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, Kevin avait gagné 100 000 euros sur RMC. Ça s'était passé dans le Moscato Show. Du coup, comment on porte bonheur? Et bien, toute la journée, c'est le Moscato Show qui va décider
de faire
gagner les auditrices et les auditeurs. Donc, c'est maintenant, vous l'avez déjà fait chez Pascal et Mathieu, entre 5h et 7h dans le morning RMC. Vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous amenez les enfants à la voiture, vous vous garez pour envoyer un SMS pour vraiment. Vous pouvez être en retard à l'école, c'est pas grave, une fois dans l'année, pour 120 000 euros.
Pour 120 000 euros, ça l'avoue.
Donc, vous arrêtez tout. Donc, c'est le moment de jouer pour remporter donc 120 000 euros. C'est exceptionnel, c'est jamais vu sur RMC. C'est 100 000 euros pour vous, net d'impôts, versés directement sur votre compte en banque, vous imaginez. Et en plus, 20 000 euros à la personne de votre choix, hein, de vos proches. Il y a une règle, c'est pas compliqué. Si on l'appelle, ce proche, il suffit qu'il décroche et qu'il dise « J'écoute RMC ». Donc là, vous arrêtez tous et maintenant, ça peut changer votre vie. Vous envoyez RMC par SMS.
Et vous dites à vos copains d'écouter RMC
en permanence toute la journée. Vous envoyez maintenant RMC par SMS au 732-16. C'est pas compliqué, c'est un SMS envoyé. RMC par SMS au 732-16. Et surtout, vous avez 10 minutes pour le faire. Il est 8h22 à 8h32, c'est terminé. Donc 10 minutes pour gagner. Nous, on sait comment ça se passe. On a fait gagner ça dans le Moscato Show.
Ils ont fait gagner les 120 000 euros.
Il vous reste presque 9 minutes maintenant. Là. C'est la course contre la montre.
C'est parti. 120 000 euros. Merci, Adrien. Tu reviendras
Pas tous les jours, mais je vais revenir. Vous faites un métier compliqué.
120 000 euros sur RMC. RMC au 732-16.
75 centimes par SMS. 4 SMS maxi.
Et dans un instant, c'est la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui sera mon invitée. Les députés vont sans doute suspendre la réforme des retraites contre laquelle elle s'est tant battue. Ça va se passer dans l'hémicycle cet après-midi. Sophie Binet, mon invitée sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale de la CGT. Merci de répondre à mes questions ce matin. C'est le jour J. Tout à l'heure, 15h, les députés vont examiner la suspension de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites contre laquelle la CGT s'est tant battue. Ça y est, cet après-midi, ça devrait sauter. Est-ce que vous vous en réjouissez ?
Le décalage de la réforme des retraites, c'est une brèche dans un totem du macronisme. C'est important, ça a été arraché grâce à la mobilisation des salariés. Le problème, c'est que les 64 ans restent dans la loi, mais leur application est seulement décalée d'une génération. Donc nous appelons les députés à demander au gouvernement à tenir vraiment parole et à mettre en place une vraie suspension. Une vraie suspension de la réforme, c'est un blocage de la réforme pour toutes les générations, pour qu'elle s'arrête pour tout le monde, pas seulement pour quelques générations.
Une vraie suspension, mais ça commence quand même par la suspension telle qu'elle est proposée. Vous appelez les députés cet après-midi à voter cet amendement de suspension.
Nous appelons les députés à demander au gouvernement à tenir parole, parce que aujourd'hui,
j'ai pas tout compris.
Eh ben en fait, aujourd'hui c'est un décalage de la réforme des retraites qui est proposée au vote, c'est-à-dire que les 64 ans, au lieu de s'appliquer à la génération 1968, vont s'appliquer à la génération née en 1969. Donc, ça permet pour 5 générations de partir 3 mois plus tôt, mais les 64 ans restent dans la loi. Et donc, ce que nous demandons aux députés, c'est d'exiger que le gouvernement tienne parole et qu'il retire les 64 ans de la loi pour vraiment suspendre la réforme.
Alors moi, je suis assez basique. Cet après-midi, ils doivent voter sur cet amendement-là. Est-ce que vous leur demandez de voter oui ?
Cet après-midi, nous leur demandons de modifier la copie. Ils peuvent modifier la copie, il y aura des amendements cet après-midi.
Si c'est l'amendement tel qu'il est rédigé par le gouvernement, auquel s'ajoute d'ailleurs, et c'est officiel depuis quelques instants, un amendement supplémentaire pour élargir cette suspension, y compris aux carrières longues, ma question, elle est très basique, Sophie Binet. Il y a certains qui ont déjà dit qu'ils voteraient pour cette suspension, le Parti Socialiste, le Rassemblement National. Il y en a d'autres qui ont demandé à voter contre, LFI par exemple, qui certes est contre cette réforme des retraites, mais qui estime que cette suspension, ce décalage, comme vous dites, ne suffit pas. Quelle est la position de la CGT ?
C'est très important de réintégrer les salariés en carrière longue, parce que c'était 20% des salariés qui étaient exclus du décalage, mais nous demandons aux députés de ne pas valider les 64 ans qui restent dans la loi. C'est
donc
que la
vous
copie
leur
doit encore évoluer. La copie peut encore évoluer en séance. Il faut que les députés fassent évoluer la copie pour ne pas valider les 64 ans.
Si cette copie n'évolue pas et que ce n'est que la suspension et donc qu'un décalage de 3 mois, est-ce que vous prenez ?
Et pour les salariés concernés, c'est une avancée.
Donc
ça
vous leur demandez quand même de voter oui.
3 mois plus tôt. Mais le problème, c'est que dans le même article, il y a les 64 ans. C'est ça le souci, en fait.
J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, en fait, vous vous êtes battu contre cette réforme des retraites. Certes, il ne s'agit pas d'une abrogation de cette réforme des retraites, mais c'est déjà pour, en effet, quelques générations, 3 mois de gagné. Vous devriez
au minimum vous réjouir déjà de cette première victoire. C'est une avancée pour les 5 générations concernées qui pourront partir 3 mois plus tôt. C'est une brèche dans ce totem du macronisme que constitue la réforme des retraites. Donc ça, c'est important. Mais il faut aller plus loin. Et là, en séance, faire disparaître les 64 ans de la copie. Voilà ce que nous demandons au gouvernement. Le Premier ministre s'est engagé à suspendre la réforme des retraites. Il faut qu'il la suspende pour de vrai. C'est le Président de la République qui l'a dit lui-même. Aujourd'hui, c'est un décalage, pas une suspension. Le Premier ministre doit tenir parole et suspendre la réforme des retraites et donc s'en arrêter à 62 ans et 9 mois pour toutes les générations, pas seulement la génération 1964.
Je vous repose la question. Si dans cet amendement, il y a toujours le chiffre de 64 ans, ça veut dire que vous leur demandez de voter contre, comme LFI.
Nous ne donnons pas de consigne de vote aux députés.
La CFDT n'a pas cette pudeur. La CFDT, par la voix de Marie-Lise Léon, a demandé aux députés de donner ce premier coup d'arrêt à la réforme des retraites en votant la suspension mercredi à l'Assemblée nationale.
Oui, nous ne donnons pas de consigne de vote aux députés. Ce que nous leur disons, c'est qu'il faut continuer le combat pour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous nous sommes mobilisés pendant des années à des millions pour obtenir l'abrogation des 64 ans. Et donc, il faut continuer avec ce premier coup de canif de décalage de la réforme des retraites, mais sans valider les 64 ans et donc sans accepter que les 64 ans restent dans la loi.
Mais il y a un côté jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que vous pouvez pas quand même vous dire c'est une première victoire, on y va et on fera la suite plus tard, et c'est toujours mieux que rien.
C'est une étape pour les générations concernées. Ça veut dire qu'il y a 5 générations qui vont pouvoir partir 3 mois plus tôt. Donc ça, c'est important. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout et abroger les 64 ans qui, aujourd'hui, posent problème. Voilà ce que nous disons.
Donc, vous espérez au minimum que ça change et que ça ne reste pas rédigé en l'état. Je précisais effectivement que le fait de l'élargir aux carrières longues, c'est un amendement de dernière minute rajouté par le gouvernement pour aller encore plus loin dans cette suspension.
Sinon, c'était vraiment hypocrite. C'était 20% des salariés qui n'y avaient pas accès. C'était quand même grossier, donc c'est la moindre des choses.
Ça triple le coût en 2026.
Oui, mais le coût reste quand même faible puisqu'on parle de 400 millions d'euros par rapport aux masses du budget 2026, c'est tout à fait assumable.
Par ailleurs, on n'a toujours pas le début d'une autre manière de financer ce renoncement pour le gouvernement.
Nous avons fait des propositions de longue date, notamment le fait de soumettre à cotisation l'intéressement et la participation. Ça ferait rentrer plus de 4 milliards d'euros dans les caisses. Et ça, le gouvernement, malheureusement, à ce stade, refuse de l'examiner.
Patrick Martin, le patron du MEDEF, estime que le report de la réforme des retraites est une hérésie, il le dit chez nos confrères du Figaro.
Ce qui est une hérésie, c'est cette réforme des retraites, puisque on le voit, c'est une catastrophe pour les seniors que les employeurs licencient par dizaines de milliers actuellement dans les plans de licenciement qui se succèdent. Les premiers à être éjectés, c'est les seniors les plus de 55 ans. Et le patronat n'a toujours pas mis en place de dispositif pour garder les seniors en emploi. Donc, faut qu'il arrête de se moquer du monde.
Alors, il a fait des comptes, Patrick Martin. Il estime, je le cite, que si le texte passait en l'état, il y aurait 53 milliards de plus de prélèvements sur les entreprises.
Ouais, alors faut qu'il nous donne la marque de sa calculette et qu'il renouvelle son fournisseur, parce que là, visiblement, il y a un problème sur les chiffres. D'abord, dans les mesures qui ont été votées, il y a des mesures, par exemple les 26 milliards de taxation des multinationales, que moi je trouve très positives. Malheureusement, tout le monde sait que en l'état, ça ne pourra pas s'appliquer. Et puis ensuite, sur le reste, s'il y a une augmentation de la fiscalité, c'est pour monsieur et madame tout le monde, pas pour les entreprises. Ce que Patrick Martin oublie de préciser, c'est que alors que ce budget est d'une violence inédite pour le monde du travail, le patronat a réussi le tour de force à avoir de nouveaux cadeaux, puisqu'ils ont 1 milliard de baisse d'impôts de la CVAE, l'impôt de production qui pèse sur les entreprises. Et puis, ce que le MEDEF oublie de rappeler, c'est que ce sont eux qui sont responsables du déficit aujourd'hui. Il y a eu, depuis 2017, les entreprises payent 40 milliards d'impôts en moins chaque année, notamment d'impôts sur les sociétés qui ont considérablement baissé. Ah bah ça, c'est un chiffre officiel de tous les économistes. Il y a eu 40 milliards de baisses d'impôts sur les entreprises depuis 2017 chaque année. Donc c'est totalement indécent que le patronat aujourd'hui nous explique qu'il y a un matraquage fiscal. C'est faux.
Il estime, Patrick Martin, que ça met en danger l'économie française, l'investissement, l'emploi. Il dit notamment à propos de la taxe sur la fortune improductive que c'est une
aberration, je cite, l'argent n'est pas sous des matelas, il est dans l'économie française, il finance la dette française. Qu'est-ce que vous répondez ?
Ce que nous répondons, c'est que les inégalités explosent en France, notamment les inégalités entre celles et ceux qui travaillent et celles et ceux qui vivent de leur patrimoine, de leurs actions, de leur patrimoine immobilier, de leurs dividendes. Et donc, l'enjeu, c'est d'avoir une vraie justice fiscale. Aujourd'hui, il y a un scandale, c'est que les petites entreprises payent beaucoup plus d'impôts que les grosses. C'est ça qu'il faut rétablir, la justice fiscale entre les ménages et entre les plus grandes entreprises et les plus petites.
Vous vous parlez de temps en temps ? Je veux dire, avec Patrick Martin, vous...
Ces derniers temps, plus beaucoup. Plus beaucoup.
Vous pensez que il y a même plus de dialogue possible?
Mais en fait, le problème, c'est que le patronat refuse toute avancée pour les travailleurs et les travailleuses et refuse tout compromis. C'est ce qu'il a montré l'année dernière dans la séquence sur les retraites. Et donc, on a un patronat qui ne cherche que des mesures pour enrichir les plus grandes entreprises et les plus riches.
Sophie Binet, il y a cette conférence travail et retraite qui a été lancée par le gouvernement. La CGT n'y va pas, le MEDEF n'y va pas. Vous n'y étiez pas le 4 novembre dernier.
Oui, on n'y était pas puisque le gouvernement avait choisi comme première date de lancement le jour d'une grande réunion d'instance de la CGT. On leur avait dit qu'on n'était pas disponible, donc c'était quand même...
Donc c'était juste une question d'agenda.
C'était une question d'agenda.
Vous irez pour la suite.
Essentiellement, pour la suite, nous souhaitons avoir des réponses sur nos demandes, sur le contenu. On souhaite pouvoir parler des conditions de travail, de l'explosion des morts et des accidents du travail et donc du bilan des ordonnances travail qui ont été mises en place par Emmanuel Macron. On souhaite parler de la question des salaires. C'est le premier sujet de préoccupation des travailleurs et des travailleuses. On souhaite parler du financement de nos systèmes de retraite, comment financer l'abrogation de la réforme des retraites, le retour aux 62 ans et même aux 60 ans. Et on souhaite aussi parler de la pénibilité pour avoir de vrais départs anticipés pour pénibilité, puisque en France, il n'y a quasiment aucun salarié qui peut partir pour pénibilité alors qu'il y a 40% des métiers pénibles.
Vous demandez à pouvoir parler de ça. Si on vous dit oui, ça sera dans l'agenda de cette conférence, alors vous irez. Mais à ce stade, vous ne dites pas on y va quoi qu'il arrive.
Bah évidemment, on y va s'il y a des enjeux pour les salariés, les travailleuses et les travailleurs. Et la CGT va toujours dans tous les endroits où on peut gagner des avancées pour les travailleuses et les travailleurs. On y va pour améliorer leur quotidien. Donc ça va être ça notre état d'esprit, bien sûr.
Vous aviez dit, il faudra de nouvelles mobilisations. Ce sera indispensable. Est-ce que vous l'estimez toujours ?
Oui, tout à fait. Parce que ce que montre le débat budgétaire, c'est que à cause notamment de l'extrême droite qui s'est opposée à toute mesure de justice fiscale, jusque-là, la copie reste catastrophique. Il y a eu des bougies arrachées grâce aux mobilisations, notamment le gouvernement a été forcé de dire que il allait renoncer à l'année blanche, c'est-à-dire au gel des pensions, au gel des prestations sociales. D'abord, ces bougies, pour l'instant, ne sont pas concrets, donc on veut qu'ils se traduisent concrètement. Et puis ensuite, le compte n'y est pas du tout. Le budget de l'hôpital, par exemple, c'est une catastrophe. Il n'y a jamais eu un budget pour les hôpitaux aussi catastrophique que celui qui est proposé aujourd'hui. Depuis le Covid, chaque année, on ferme des milliers de lits. Chaque année, chacune et chacun d'entre nous se rend compte à quel point la situation des hôpitaux se dégrade. Et là, ce budget, s'il était adopté, ça serait une catastrophe supplémentaire pour l'hôpital.
Donc, vous appelez à la mobilisation. Avez-vous déjà une date ?
Oui, nous appelons à faire grève et manifester le 2 décembre prochain. Le 2 décembre, on sera dans la séquence décisive pour la discussion sur ce budget. Il faut absolument que les travailleuses et les travailleurs soient de la partie pour que le débat budgétaire soit sous la pression de la mobilisation, pour qu'on puisse gagner l'enterrement de toutes les catastrophes de ce budget. Par exemple, l'enterrement des franchises médicales qui feraient exploser le reste à charge en matière de santé. Il faut aussi se mobiliser pour défendre la situation de notre école. À ce stade, dans le projet de budget, c'est 4500 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui sont prévues. Donc il ne faut pas
donc
que ça passe.
Donc vous appelez la France entière à se mobiliser, quels que soient les secteurs, le mardi 2 décembre, à descendre dans la rue ?
Tout à fait, on donne rendez-vous à tous les travailleurs et les travailleuses le 2 décembre dans la rue pour forcer le gouvernement à revoir sa copie, grève et manifestation. Je vais prendre encore un exemple de scandale de ce projet de budget. À ce stade, les parents d'enfants de plus de 14 ans auraient une forte baisse de leurs allocations familiales, ce qui conduirait potentiellement à une perte de quasiment 1 000 euros par an pour les parents qui ont des enfants de plus de 14 ans. Donc, il y a une série d'horreurs dans ce budget qui doivent être retirées. Elles ne le seront que si nous nous mobilisons très largement, comme l'ont fait les retraités la semaine dernière.
Il y a une série d'horreurs dans ce budget, dites-vous, et vous appelez donc à la grève et à la mobilisation le 2 décembre prochain. Vous dites, parce que ils ne reculeront que si nous nous mobilisons. Et j'ai noté une phrase que vous m'avez dite dès la première phrase où je vous ai interrogé ce matin, Sophie Binet, sur la suspension de la réforme des retraites. Vous avez dit, ça a été arraché grâce à la mobilisation des salariés. Bah, je suis pas du tout d'accord. Ça a été arraché grâce à la mobilisation du Parti Socialiste. Mais la mobilisation des salariés, il y en a eu. Et il y en a eu plus que jamais. Vous vous êtes énormément mobilisés. Il y a eu des manifestations pendant des mois. Pour autant, la réforme était passée. Si elle est suspendue là, c'est en vertu d'un accord politique.
Oui, mais en fait, les partis politiques sont là.
Vous pourriez au moins leur dire merci, quoi. Je veux dire, et ne pas dire que c'est grâce à la mobilisation de vos salariés, parce que c'est pas le cas.
C'est grâce à la mobilisation des salariés, je le maintiens. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ils se sont pas réveillés un matin en se disant, on va se battre sur la réforme des retraites. C'est parce que des millions de personnes se sont mobilisées pendant des années, parce que nous leur avons
dit. C'est pas parce que le Parti Socialiste a un moment menacé de censurer? C'est pas plutôt pour ça?
Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils ont été élus pour abroger.
Aussi, ils sont convaincus, eux, qu'il faut abroger cette réforme.
Oui, bien sûr, mais parce qu'ils ont été élus pour abroger cette réforme. Et donc, pourquoi? Grâce au rapport de force des travailleurs et des travailleuses, c'est la première fois que 2 ans et demi après une mobilisation historique, on ne tourne pas la page. C'était la volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page, de passer à autre chose. Grâce à notre mobilisation, on a réussi à garder le dossier retraite sur le dessus de la table, et il va falloir continuer à le faire jusqu'aux élections présidentielles.
Est-ce que, malgré tout, vous estimez que c'est grâce au Parti Socialiste?
C'est grâce, encore une fois, aux travailleuses et aux travailleurs.
Ça pourrait être les deux, au moins.
Bah, c'est évidemment parce que il y a des députés qui se battent, mais pas seulement le Parti Socialiste, qui se battent, contre cette réforme des retraites depuis 2 ans et demi, parce que c'est ce que demandent les travailleurs et les travailleuses.
Je vois pas ce que ça vous enlèverait de dire que, malgré tout, ce qui le permet aujourd'hui, c'est la mobilisation du Parti Socialiste.
Bah, et de fait, là, il y a un décalage qui va rentrer en vigueur, mais les 64 ans restent dans la loi. Donc c'est quand même pas seulement un détail.
Et c'est un début pour vous uniquement, vous l'avez dit, une brèche. Sophie Binet, il y a d'autres dossiers qui vous inquiètent, et en particulier la question de la réforme de l'assurance chômage.
Oui, tout à fait. Ça fait des mois que tous les syndicats alertent. Il faut que le gouvernement enterre cette réforme qui serait d'une violence inacceptable, puisque ça serait plus de 3 milliards d'euros d'économies sur les privés d'emploi, dans un moment où les licenciements explosent, puisque les plans de licenciement se succèdent. Et donc, il faut que le gouvernement nous dise maintenant, de façon très claire et par écrit, qu'il renonce à réformer l'assurance chômage et qu'il enterre cette réforme.
Vous leur demandez de s'engager?
Oui, tout à fait, par écrit, parce que le précédent gouvernement a rédigé une lettre de cadrage nous invitant à négocier. Nous avons, les organisations syndicales, refusé de négocier sur cette base parce que ça serait beaucoup trop violent pour les privés d'emploi. Maintenant, il faut que le gouvernement nous dise précisément, clairement, par écrit, qu'ils enterrent la réforme.
La question d'une réforme des retraites avec une part de capitalisation. Vous avez sans doute vu les propositions de Gabriel Attal au nom de Renaissance hier, qui dit qu'il faut aller progressivement vers une capitalisation en parallèle de la réforme des retraites par répartition, avec 1000 euros qui seraient donnés à la naissance pour chaque enfant, pour constituer un début de compte. Est-ce que vous estimez que c'est une piste possible de réflexion?
On a vu qu'il était en campagne électorale et qu'il fait feu de tout bois jusqu'à reprendre une proposition de Donald Trump. Pour nous, c'est non, c'est clair, puisque d'abord, c'est très coûteux pour les finances publiques. Et ensuite, c'est sans aucune garantie pour les salariés, puisque comme on le sait, le problème des retraites par capitalisation, le problème des fonds de pension, c'est qu'on n'est jamais certain de récupérer sa mise et qu'il suffit d'une violente crise financière pour que tout parte en fumée.
Et vous appelez donc à cette mobilisation, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Je le rappelle pour ceux qui nous auraient pris en route, vous appelez à la mobilisation et à la grève le 2 décembre. Une dernière question, tiens, est-ce que vous en avez parlé avec vos collègues, vos confrères? Est-ce que vous en avez parlé avec Marie-Lise Léon de la CFDT?
Oui, tout à fait. Nous avons proposé à l'ensemble des organisations syndicales d'appeler à la mobilisation. Certaines ont accepté et y seront d'ores et déjà, à savoir la FSU et Solidaire. D'autres, à ce stade, ne le souhaitent pas. Mais la porte est toujours ouverte à toutes celles et ceux qui souhaiteront se joindre à cette mobilisation, parce que nous avons besoin d'être le plus nombreux et nombreuses possible pour faire bouger
les lignes. Donc, à ce stade, si je fais les comptes, il y a CGT, FSU, Solidaire, mais il n'y aura pas la CFDT qui est quand même le premier syndicat
oui,
de France.
Tout à fait, mais j'espère que ça va changer d'ici au 2 décembre.
Vous espérez les convaincre. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, d'avoir accepté de répondre à mes questions au matin donc de ce vote à l'Assemblée nationale sur la suspension des retraites. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'instant revisité par Nicolas Canteloup. Philippe Martinez, bonjour. Vous êtes l'ancien secrétaire général de la CGT. Vous avez, j'imagine, écouté Sophie Binet qui était mon invitée à l'instant.
Bah écoutez, mon regard, oui, Sophie Binet, je l'ai écoutée. Bah écoutez, y a rien à dire, elle est mignonne. Hein, bah propre sur elle, voilà, presque trop. Hein, excusez-moi, mais bah elle fait limite bourgeoise. Voilà,
hein,
c'est moi. Bon, moi je vais pas critiquer. Comptez pas sur moi pour critiquer ma succès,
non,
ma
succédrice,
ma enfin celle qui m'a piqué la place. Enfin voilà, je l'ai croisée. Elle sent ni trop la merguez ni le cambouis. Hein, alors, mais bon, peut-être que c'est une bonne chose. Je critique pas, c'est un changement d'époque, voilà. Après l'intelligence artificielle, voilà, on est passé au syndicalisme artificiel. Hein, c'est chat CGT, voilà. Hein, avec peut-être des nouvelles marques de calculettes. Hein, elle vous l'a dit. Hein. Moi, excusez-moi, mais moi je préférais le combat de rue, hein, la guerre de tranchées sociales. Hein, mais tout ça, c'est fini. Je vois bien que je suis le dernier poilu.
Philippe Martinez, poilu. Thibaut Texeret est avec nous pour les titres de l'actualité. Bonjour Thibaut.
Eh oui, bonjour Apolline. Hier, 11 novembre, les Français étaient nombreux à suivre l'hommage aux soldats inconnus. Non, désolé Apolline, je ne parle pas de votre invité d'hier. Très attendu, l'interview très attendue de Jean-Hervé connais pas. Allez, c'est parti pour les titres. En ce lendemain, donc, du 11 novembre, c'est le vote du budget de la Sécurité sociale pour sauver et raviver la flamme du soldat le cornu. Justice, au lendemain de sa sortie de prison, Nicolas Sarkozy a publié un message de remerciement à tous ceux et celles qui l'ont soutenu. Mamie Nova, la laitière et les petits filous. Nicolas Sarkozy qui s'est donc offert un déjeuner avec Carla Bruni dans une brasserie parisienne. Tout de suite, la réaction de l'ex-président.
Oui, mais ça a été l'info de toute la semaine. Tout le monde a appris que je savais pas cuisiner. Mais Carla, c'est pire. Elle sait même pas ce que c'est qu'un œuf et passer une commande sur Uber Eats.
Merci, monsieur Sarkozy. Et merci, Thibaut Texer. Hier avaient lieu les cérémonies du 11 novembre. Bonjour, Éric Ciotti.
Oui. Bonjour, Mme Malherbe.
Comment il faut ?
Écoutez, c'est important, je le crois et je le dis si solennellement, de rendre hommage à nos poilus. Qui ont combattu, il faut le rappeler, l'envahisseur. Même si c'est vrai qu'une invasion allemande, c'était pas ce qu'il y avait de pire. Mais parce que les Allemands, ils sont quand même, notons-le, blancs et chrétiens. Hein? Alors qu'aujourd'hui, ceux qui nous envahissent sont quand même un peu moins blancs et un peu moins chrétiens. C'est le constat que je fais, excusez-moi, mais les crânes rasés en uniforme ont été changés en barbus en djellaba. Voilà. C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Hein? Donc je lance un appel aux poilus de France. Revenez, parce que les poilus, excusez-moi, mais ça restera toujours les plus compétents pour combattre des encore plus poilus.
Ah, c'est ça. Merci Eric Ciotti. Emmanuel Macron, vous avez célébré les commémorations. Comment avez-vous vécu cette journée, Monsieur le Président ?
Oui. Bonjour à toutes et à tous. Quelle dignité, Madame de Malherbe. Quelle leçon. Ce fut un honneur, oui, de rendre hommage aux poilus. Ça, c'était la France qui travaille, la France qui bosse. Tu leur disais, allez Émile, prends une boîte de haricots, un cubit de rouge et retourne dans ta tranchée. Eh bien, les gars, ils y allaient. Ça pleurnichait pas sur l'âge de la retraite, excusez-moi, parce qu'à l'époque, l'important, c'était pas à quel âge on prenait sa retraite, c'était de réussir à prendre sa retraite vivant.
On a vu Sébastien Lecornu aux commémorations.
Oui, bah écoutez, mon Sébastien Lecornu, c'est mon moine soldat inconnu. Voilà, c'est moi je l'aime bien. Il a beaucoup fait pour l'armée. Il a même intégré des poilus dans son gouvernement.
Ah oui.
Monique Barbu.
Ah oui, c'est vrai, Monique Barbu, c'est vrai. Merci Monsieur le Président. Nicolas Sarkozy a donc passé sa première journée à la maison depuis sa sortie de prison. Et on en parle avec son soutien de longue date. Tiens, Nadine Morano, quel plaisir de vous retrouver.
Madame de Malherbe.
Moi, ce matin, je vous le dis, j'ai les boules.
Ah.
Oui, est-ce que vous avez vu hier les commémorations, monsieur Texer, pour la sortie de Nicolas Sarkozy? Hein? Non? Eh bien, c'est normal, parce qu'il n'y en a pas eu. Rien n'a été organisé. Mais c'est une honte. Vous croyez pas que Macron aurait pu avoir quand même la décence de venir saluer la libération d'un prisonnier politique? Eh bien, non. Non, il a préféré passer la journée, hein, en faire des tonnes pour un soldat totalement inconnu, que personne ne connaît, et en plus qui est mort. Non mais, une incinération qui a duré des plombes sur Arc de Triomphe parce que monsieur n'avait prévu qu'un petit bras zéro. Oh.
Merci Manuel Morano. L'accord de libre-échange avec l'Amérique latine, le Mercosur, a été signé. François Ruffin, vous êtes contre cet accord qui, selon vous, va appauvrir nos ouvriers, hein, notamment dans votre région.
Apolline, Malherbe, on a aujourd'hui une agriculture exsangue qui a du mal à trouver des débouchés. Et on a Macron qui trouve rien de mieux que de signer cet accord avec le Mercosur qui va rendre encore plus pauvres nos agriculteurs, il faut le dire, et nos ouvriers agricoles qui se lèvent tous les matins pour faire un travail dans des conditions moyenâgeuses après avoir bu un mauvais café Marc Repère dans une pauvre tasse ébréchée. Oui, c'est ça le quotidien de la plupart des Français. Vivre dans un placard de 2 mètres carrés comme ils s'en vont aujourd'hui dans la capitale à Paris, en couple avec 9 enfants qui se partagent 2 ou 3 cafards grillés le soir pour se nourrir.
C'est vraiment ça la vie des ouvriers quand même, François
Mais Bouchard. Bien sûr, Apolline de Malherbe. Et avec le Mercosur, c'est encore pire. Les patrons, c'est eux qui vont gagner. L'ouvrier, tous les jours, on le voit sur BFM, sur LC... non, c'est pas le droit de le dire. Ils le voient que les grands patrons, ils ont multiplié leur fortune par 1400 milliards de 70% de truire 6 mois. Que Bernard Arnault, il se gave d'homard, des hors-marts, farcis, au foie gras, flambé au champagne sur son yacht au large des Seychelles, avec autour de lui des dauphins qui font des pirouettes et des saltos pour le saluer. C'est ça la réalité. Alors que pendant ce temps-là, le Français moyen, lui, le seul animal qu'il a autour de lui, Madame de Malherbe, c'est son chien mourant. Et son seul espoir, c'est se manger le cadavre de son chien Noël pour se nourrir en guise de bouche. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis, ça suffit la série d'horreur. Le budget, le Mercosur et partout ailleurs. C'est ça, ça suffit.
Merci et merci Nicolas, François Cantou, que l'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, quel est le programme, Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous parlerons de ce qui va se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est jour de fête ou jour de capitulation? La suspension de la réforme des retraites, vous venez en parler avec nous au 32-16.